Nous sommes mercredi 24 octobre 2018, il est 21h et vous écoutez le Dojo Bar.
Fake news.
Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir Mortal.
Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Ah, voilà, merci beaucoup.
Et bonsoir Zergy qui ne répondra peut-être pas puisqu'apparemment il y a un petit souci technique aussi de l'autre côté de Paris, hein, du aussi. Côté de voilà.
Une minute de silence s'il vous plaît.
Une minute de silence pour le micro de Zergy s'il vous plaît.
Non, non,
cette
non,
émission qui a donc débuté parfaitement à l'heure, hein, il est 21h01, donc on est vraiment complètement dans les temps.
Comme d'habitude d'ailleurs, une équipe professionnelle.
Le professionnalisme, la voilà, et la prochaine
quoi,
fois, la prochaine fois, je pense que je ferai pas du tout ça. Et donc c'est très bien. Voilà, nous allons parler de plein de choses. Nous allons avoir notre fabuleuse rubrique Le Monde Merveilleux du jeu vidéo, où on va parler Le Monde Merveilleux du business jeu vidéo, ma rubrique préférée. Nous allons parler un petit peu de Old School Musical, qui n'a rien à voir avec High School Musical, en tout cas j'espère.
Mais qui est très très bien.
Il y a des chansons. Il y a des chansons.
Nous allons parler de la passion, et effectivement nous allons parler de la passion. Nous allons parler, reparler un petit peu de Xenoblade Chronicles 2, Torna, The Golden Country, My Life as a Dark Lord, spéciale édition Deluxe. Parce que moi je l'ai fini, donc maintenant j'ai légitimité à en parler. Je sais que Mecton a beaucoup avancé dessus, on en avait parlé un tout petit peu la semaine dernière, là on l'a torché, donc on va pouvoir en parler de manière un peu plus précise, et notamment de ce qui marche et ce qui marche pas. On en avait déjà fait un petit bout, on va finir.
Et retournons-y.
Nous allons le retourner, mais nous allons commencer tout de suite par une petite nouvelle que j'ai trouvée extrêmement réjouissante et qui personnellement m'a fait beaucoup beaucoup rire. Huawei, alors Huawei en chinois ça se dit pas Huawei, ça se dit Croivé. Il faut le savoir.
Ah mort, Louis Croivé bâton.
Louis Huawei bâton.
Oui Huawei
ouais,
bâton.
Pardon.
Donc Croivé, le célèbre constructeur chinois.
Du verbe Croivé.
Vous croivez en nous, hein, utilisé dans une phrase. Croivez, le célèbre constructeur chinois, notamment de smartphones, mais aussi beaucoup d'équipements. Ils font des serveurs, ils font des routeurs, ils font des switches, ils font énormément de trucs. Hein. Il y a un geek qui dit des conneries dans le chat, du coup, puisqu'il n'y a pas de micro, c'est quand même assez fun. Va lancer ce qu'ils annoncent officiellement comme un concurrent à la Switch. Attention.
Une PS Vita.
Le Mate 20X. Qui sera donc une console, une tablette Android avec des manettes détachables et qui coûtera donc 900 balles.
Voilà.
Wow.
Voilà. Ridge Racer. Alors voilà, j'ai à peu près pensé à ça.
J'ai deux questions. Est-ce que ça fait tourner Doom Eternal?
Alors ça, j'en sais rien.
Deuxième question.
Est-ce que ça fait tourner Zoom?
Est-ce qu'il y a Mario Odyssey dessus?
Alors moi, j'ai deux questions. Pourquoi et comment?
C'est tout. Non, pourquoi et comment ça se tient? Moi, la vraie question, c'est en quoi c'est un concurrent à la Switch?
Ils l'annoncent eux-mêmes comme étant un concurrent à la Switch parce qu'ils ont le même form factor et tout ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont quand même trois fois plus chers.
Ils ont le
très balèze. C'est sous Android, ça veut dire que de toute façon, ce sera optimisé parce que le Tegra qui est dans la Switch, il sert déjà à équiper des tablettes Android Nvidia qui d'ailleurs ne sont plus vendues. Hein. C'est un chipset qui date un petit peu. Mais quand les tablettes Nvidia tournaient dessus, c'était de l'Android, et ça faisait pas des merveilles. Hein. Donc il y a une partie hardware, certes, mais il y a aussi une partie software qu'a apporté Nintendo. Il y a aussi tout un tas de bibliothèques qu'a développé Nvidia autour. Enfin, c'est quand même pas totalement neutre. Si tu utilises Android, tu vas forcément être plombé par le fait qu'Android n'a pas vraiment été conçu pour faire tourner des jeux. On peut le faire, hein. Mais pour l'instant, c'est, de ce que j'ai compris, relativement limité.
Non mais bien sûr, mais après il faut aussi remettre un peu les choses dans leur contexte, parce que quand on fait une comparaison grossière, on se dit ouais forcément une Switch ça coûte 300€, le téléphone là en coûte 900, mais voilà, ça reste quand même en vrai un téléphone. Alors au final, l'initiative est quand même pas mal d'avoir la petite manette et que ce soit un peu prévu en fonction. Ça reste super cher pour un téléphone, bien entendu, on est d'accord, hein. Mais vu qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser 1400€ pour un iPhone X, S, V,
je n'en connais pas.
Grand modèle 12 pouces, je pense que
c'est
Microsoft, Fred Coca, Je pense que c'est bien possible que ce téléphone se vende et qu'en plus, ça puisse attirer justement un public un peu joueur qui a l'habitude de dépenser beaucoup pour son téléphone. C'est plus ce public-là qui est visé à mes yeux que vraiment ceux qui ont l'habitude de dépenser 300 balles dans
une console. C'est un téléphone avec fonction console, quoi, du coup. C'est pas
je vois plus comme ça.
Voilà, on est d'accord, l'annoncer comme étant concurrent de la Switch, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.
C'est parce que c'est le truc hype, en fait, en ce moment.
Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que il fallait un mot hype. C'est les influenceurs. Il fallait un truc pour les influenceurs et du coup. On
a trouvé moi, ça me fait penser à une console qui a quand même maintenant 13 ans, qui a été une des rares consoles scandinaves puisque.
T'es un bâtard.
Non mais
ça troll.
Non mais ça reste.
21h10 et vous êtes déjà en train de troller.
21h quoi? 22 tu veux dire?
Non, 10. Non, 10, ok.
Non, mais surtout, c'est un mec qui fait des portables, qui fait une console et qui estime pouvoir concurrencer les cadors du marché. Et bon, là, pour le coup, moi, ça me fait penser à Engage et un autre truc qui avait fait Sony, je crois que c'était la PlayStation Xperia.
PS Vita.
Non, mais Sony avait fait un téléphone Xperia où en fait, il y avait espèce de clapet et c'était même de PlayStation en dessous et ils avaient tout un store spécial pour cette
avec
cette,
les pubs nuls.
Portable. Xperia Play, nous glissons dans l'oreillette où effectivement, t'avais une espèce t'avais une espèce de glissière. Mais comme c'est comme des téléphones du début des années 2000, tu sais, t'as le truc qui slide comme ça, donc t'avais une espèce de slide qui révélait effectivement
Pas un clavier, mais une manette.
Non, pas un clavier, mais une manette, ouais.
Qui était une bonne idée, ceci dit, hein, si tu veux faire du jeu sur téléphone mobile. Or, il serait bon de rappeler que le jeu sur téléphone mobile, c'est avant tout une expérience pensée pour le tactile et pas pour la manette.
Mon dieu, Tardy nous annonce qu'il a le Xperia Play. Tardy, tu te rends compte que tu viens de regagner au moins 50 points dans notre estime, qui était déjà très haut sur l'échelle. Là, ça va devenir compliqué. Mais après, je veux bien. Alors voilà, Tardy nous dit que c'est super bien pour l'émulation et je veux bien le croire parce qu'effectivement, des émulateurs de NES, Super NES et d'autres consoles Nintendo parfaitement valables. Il y en a beaucoup sous Android, donc je veux bien croire que le Xperia Play, pour pouvoir jouer à ça, c'est top. Maintenant, pour pouvoir jouer à des vrais jeux qui sont sortis pour Xperia Play, dans mon souvenir, il n'y avait pas grand-chose déjà.
Je crois que les consoles portables de Sony, c'est juste des supports à émulation pour Nintendo. clairement, attends, ma PSP, je n'ai jamais autant utilisé que depuis que je sais qu'il y a l'émulation. Quoi.
Attends, les appareils de Sony, de manière générale, ne sont juste que des pâles copies de ce que fait Nintendo. Donc, je veux dire, autant améliorer le produit.
Ah, mais c'est du coup, oui, je connais personne qui se sert aujourd'hui de sa PSP ou de sa PS Vita ou autre. Enfin, PS Vita un peu moins, parce qu'il y a quand même des jeux sympas dessus. Mais,
pardon.
Si, tu as sur PS Vita,
t'as genre.
La PS Vita existe.
Si t'as non mais elle a vachement marché à l'étranger, hein. Il y a qu'en France Gravity on est Rush, voilà mais
alors, en
non,
France en Europe aux États-Unis au Canada
qui avait
en fait elle a marché au Japon peut-être un et petit encore. Peu et encore elle s'est fait rouler dessus par la 3DS au final.
Non mais non mais même aux États-Unis je crois qu'elle a super bien marché la PS Vita.
Aux États-Unis,
hein. Il y a qu'en France où elle a fait un bide énorme.
Il y a pas un seul jeu qui sort, les seuls qui sortent des jeux c'est Limited Run Games, faut arrêter.
Oui, mais n'empêche qu'elle a fonctionné.
Ah bah oui, à 5000 exemplaires d'un jeu tous les mois, c'est sûr que c'est quand même exceptionnel.
Mais
fake news.
Sérieusement, oui. En vrai, Sony fait que ça. Et j'ai peur que... Enfin, j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Je m'en fous. Que le Honor soit
non,
juste
on a
ça.
Compris,
quoi.
Voilà, t'es payé par Sony. Bravo, Ilan.
Soit de bravo, l'indépendant journalistique.
La passion.
Non, j'ai été payé en tour d'Eiko, pas en argent. Vous inquiétez pas. oui, le Honor va finir juste... Enfin, le Huawei va finir juste en support d'émulation pour de la PlayStation, quoi. Parce qu'elle sera assez puissante pour faire tourner de l'émulation PlayStation ou autre console de Steam.
Moi j'ai peur que ça finisse comme ça, surtout que, je sais pas, chaque fois que quelqu'un a lancé une console, parce que les projets Kickstarter en disant « Ah, c'est une console Android mais que tu peux brancher sur ta télé », puis après on a eu « Ah, c'est une console, c'est une tablette Android mais avec une manette ». Bon, je crois qu'à chaque fois ça a bidé, qui se rappelle de la Ouya ?
Exactement, j'allais dire la Ouya.
Personne connaît.
C'est comme la PS Vita, ça
apparemment Mekton est au courant. Oui.
Mekton en a eu.
Je vous ressors le lien.
Ah mais oui.
Mekton l'a
oui.
acheté Day One.
Ouais.
Ce magnifique article.
Ah mais oui, c'est vrai.
J'ai kickstarté cette merde.
Tu l'as kickstarté.
Mais oui, mais il est là.
Les possesseurs de Ouya, pourquoi, comment, quels sont leurs réseaux?
Non mais voilà, Mekton, c'est quand même... depuis qu'il a un emploi, un CDI et du pognon, ça devient n'importe quoi. Hein, je suis désolé.
De toute façon, c'est tout ce genre d'essai, je pense que dans 2 ans, ça va finir dans un reportage d'Élise Lucet, tu sais, genre...
les consoles Android, qui sont-elles? Quels sont leurs réseaux?
Oui, c'est ça, genre, qui les a achetés avec des témoignages, genre, repenti du djihad.
Et surtout, ça, ils vont être comme ça. Ils vont être sous mosaïque avec foi modifiée.
Je sais pas si ça a vraiment un avenir. Je pense que pour le coup, le Honor se place plus dans la mode des smartphone gamers. Avec Xiaomi Black Shark, ouais.
On pose quand même une question intéressante. Est-ce que les consoles Android de type Ouya sont le résultat du complot sioniste franc-maçon mondial Illuminati pour la domination du monde?
Bah, si tu changes toutes les lettres de Ouya et que tu les réarranges, ça fait Yahvé.
Moi, je pensais oui.
Oui, y a ça.
Ça me rappelle le fabuleux si je prends des points complètement aléatoires sur la carte, et oui, ça fait le symbole de Batman, parce que je fais ce que je veux. Voilà, non mais moi aussi, je peux inventer des trucs. Bref, bon, on va faire une première petite pause musicale. Putain, cette première partie a été extrêmement courte, il est déjà 21h20, c'est extraordinaire.
il est déjà 21h02,
c'était il arrivait plus à y croire. Il croit même plus à ce qu'il
dit. J'ai jamais cru, en vrai.
Il a décalé toutes les horloges chez lui.
Non mais voilà, mais je rattrape au fur et à mesure, je suis comme le décalage horaire, je m'avance de 5 minutes tous les jours, tu vois, pour éviter de faire une heure, le... voilà.
Et donc on se retrouve avec la pause musicale, une petite musique qui va durer 12 minutes.
Voilà, on se retrouve... Non mais ça, le temps est une notion très relative, hein. Je suis désolé, je suis en altitude, je suis plus loin de... Mon centre de gravité est plus loin du centre de gravité de la Terre, donc techniquement, je vieillis moins que vous. Voilà.
Comme dirait Einstein.
Vous êtes des
à
vieux.
À tes souhaits,
chérie. Tout le monde te souhaite à tes souhaits. Voilà. Même le chat, tout le monde est en train de dire à tes souhaits. J'espère que ça te fait plaisir.
Hey, mortel, qu'est-ce que c'est la première pause musicale?
Mais qu'est-ce que c'est la première pause musicale? Eh bien, nous allons nous écouter un petit morceau de Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country Special Circus Edition.
Tu voulais Pokémon, c'est ça, Drosgar?
Oui, j'ai hâte.
Mais je mettrai du Pokémon peut-être après. Peut-être. Donc voilà, c'est un morceau qui s'appelle Lazaria, et qui en fait est la toute première zone du jeu qui se situe sur le continent de Torna, c'est le machin où t'atterris en premier. C'est un morceau qui dure un petit peu plus de 4 minutes.
C'est vraiment des branleurs.
Voilà, et on se retrouve tout de suite après.
On se retrouve à 22h, salut.
Et nous voilà de retour.
Il est 21h32.
Voilà, c'est bon. On a
le retard a été rattrapé.
Tout à fait, on est très très fort. Nous allons donc entamer notre fabuleuse rubrique Fric égale pognon. La rubrique Le monde merveilleux du business du jeu vidéo. Et on va commencer tout de suite par une suggestion de monsieur Mecton, que j'avais vu passer, que je voulais reparler, mais que du coup, c'est très très bien que tu l'aies dit. NBA 2K Playgrounds 2 sort, et donc fait disparaître le 1 de l'eShop. Donc aujourd'hui, on ne peut plus télécharger NBA Playgrounds 1.
C'est normal, hein?
Bah non.
Ils protègent le business, voilà, ça marche comme ça, les enfants.
Mais non, mais s'il est au même prix, je vois pas ce qu'ils protègent comme business, en plus.
Enfin, bah, parce que le 2 doit être encore plus putassier dans les HN Games.
Donc en fait ils ont préféré faire ça plutôt que voilà. Oui, le 2 est blindé de DLC, nous dit-on, mais effectivement c'est peut-être ça, mais enfin je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, ça veut dire alors, aujourd'hui est-ce que tu peux re-télécharger NBA 2K Playgrounds 1 si tu en as envie et que tu l'as acheté ou pas?
J'ai la trouille de faire le test, mais j'ai eu un DLC sur le premier, ça s'appelait Shaqful Legends.
Putain, ah oui, tu l'as eu avec Shaqful toi en plus.
Ouais.
Putain, t'es une grosse star. Ah mais c'est Mecton qu'on devrait envoyer faire du Twitch en fait. Parce qu'il achète vraiment des jeux de merde. Mais c'est violent quand même.
Jeux de merde.
Non mais je trouve ça assez ouf parce que effectivement que les mecs fassent ce qu'ils veulent, c'est de la distribution dématérialisée. Donc effectivement les mecs ont le droit de retirer le truc à tout moment. sans aucun préavis, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux... Je sais pas si tu peux le retélécharger, si tu l'as déjà acheté, est-ce que tu peux le retélécharger si tu l'effaces?
Souvent,
est-ce
dans ce genre de cas, tu Switch, peux, mais après, c'est à la discrétion du, de l'éditeur.
Ah oui, donc il y a moyen que ce soit plus le cas, en plus.
Oui, en plus, on parle d'IA, hein, c'est quand même des sacrés putes.
Ouais.
Ah ouais. Mais quel est l'intérêt de l'éditeur de faire ça, je veux dire, à part le fait de...
De faire acheter le second.
Non, mais le second, si t'as acheté le premier et que t'aimes bien, de toute façon, tu vas acheter le second. Je vois pas l'intérêt de...
Bah non,
à part ne pas créer de confusion.
Ça c'est ce que j'allais dire, justement. Profiter de créer la confusion à la tête des
mais
joueurs.
Il est pas gratos.
Pas trop.
De quoi, le NBA 2K Playground
pas leur, c'était pas leur jeu gratos qui sortait sur mobile aussi?
NBA 2K Playground, non, ça me
Ah, je confonds avec machin Jam. Ils avaient un truc comme ça.
Il y avait un NBA Jam
dans
le monde,
je sais
pas quoi. Ah ouais,
non, mais parce que j'ai confondu parce qu'ils avaient la même DA avec les grosses têtes et tout.
Oui, mais c'est le même jeu.
Et putain.
Non, mais je trouve ça quand même assez ouf. Alors, je sais que. Je me pose la question d'une histoire de rationalité économique. Simplement, tu payes, quand t'es hébergé sur l'eShop, je pense que tu payes des royalties à Nintendo pour chaque téléchargement. C'est-à-dire qu'un jeu qui coûte 20 balles, Nintendo doit toucher quelques deniers dessus.
Sûrement 30% comme sur beaucoup de stores en ligne. Enfin,
ça,
c'est
ce qu'il se dit, hein. Ça doit être à peu près ça. En plus, t'as la TVA, donc voilà, t'as 50% du prix qui passe de toute façon dans la taxe de l'État et puis la taxe Nintendo. On va simplifier. Mais derrière, le simple fait d'avoir un jeu présent sur l'eShop, tu payes aussi une espèce de coût de maintien. Je sais que c'est le cas sur Steam, où en fait, si t'as un jeu qui fait 3 Go, bah, tu payes genre 300€ par mois pour que ton jeu soit maintenu. Vivant sur le store. Ce qui fait que si ton jeu ne se vend plus, ou il se vend pour moins de 300€,
c'est pas intéressant de le garder.
C'est pas intéressant de le garder. C'est comme ça que moi j'avais acheté Blur d'Activision sur Steam, et aujourd'hui, on ne peut plus le télécharger. J'ai perdu ma copie de Blur, parce que j'ai formaté un disque, enfin j'ai fait de la merde, et je ne peux plus le retélécharger.
Putain.
Il n'existe plus, on peut plus l'acheter, bon ça c'est une chose, mais on peut même plus le retélécharger. Parce qu'effectivement, Activision a considéré que... Alors, je sais pas si la suite est sortie sur Steam, c'est possible. Je sais pas s'il y a une suite, d'ailleurs, à ce jeu-là. Mais...
Non.
Voilà, j'en sais rien. Pas. Mais en tout cas, Activision a considéré que c'était plus rentable pour lui de maintenir le truc sur Steam. Donc en fait, le jeu est plus disponible en dématérialisé. Moi, ma copie, je l'ai perdue. Alors, j'ai pas foutu grand-chose dedans, mais les 15 balles que j'ai foutues dedans, de toute façon, ils sont à la poubelle, là, maintenant. Donc la vraie question, c'est... Comment on fait pour ce genre de cas-là, quoi ? Est-ce qu'il y a un recours éventuel si par hasard tu es un consommateur floué qui ne peut plus retélécharger un jeu que tu as légalement acheté ?
Je sais Alors, même pas tu si l'as pas possible. Acheté.
Ah,
c'est bien ça
tu
le
as
problème.
Loué, oui.
C'est que genre ce qu'on avait vu avec Steam, on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, c'est pas vraiment un achat. Donc en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et quand tu signes que tu acceptes les conditions générales d'utilisation, tu sais que tu peux te faire enculer. Alors tu peux faire un recours, mais t'auras rien. Dès la première instance, tu vas être débouté. Je dis que
c'est juriste. C'est le fameux, oui, tout à fait. C'est le fameux truc de la Commission européenne où ils avaient demandé à Steam d'arrêter d'utiliser le mot acheter parce que justement ça posait problème de dire acheter puisque tu n'avais pas la capacité à le revendre. Et la caractéristique essentielle de quelque chose que tu as acheté, c'est ta capacité à le revendre, en théorie. Je trouve ça un petit peu embêtant ce genre d'événement-là, sachant que ça aurait pu se produire aussi simplement parce que le jeu se vendait plus assez. Hein. Très clair, des jeux qui ont été retirés de l'eShop, je pense que ça va venir aussi. La question que je me pose derrière, c'est est-ce que... Alors, bon, pour NBA 2K Playgrounds, je pense que ça risque pas. Mais est-ce que dans quelques années, on va voir des gens vendre des consoles avec tel et tel jeu dématérialisé, où il n'y a jamais eu de version physique, et où, en fait, le seul moyen d'avoir une copie légale, bah, c'est ça, quoi.
Comme Flappy Bird, comme
on en a eu quelques-uns comme ça. Est-ce que vous pensez... Alors pour NBA 2K Playground, ça m'étonnerait.
Bon, il y a quand même peu de raisons que les gens déjà veuillent le racheter. Hein.
Surtout qu'il y a le 2 qui est disponible. Hein.
Oui, mais encore, si dans le 2 il y avait l'intégralité du 1, à la limite ça aurait du sens, éventuellement. Parce que tu pourrais dire... Parce que, je veux dire, c'est le cas de Left 4 Dead 2, finalement. Aujourd'hui lance Left 4 Dead 1? Dans Left 4 Dead 2, t'as toute la campagne de Left 4 Dead 1. T'as pas les persos, je crois, mais encore, je suis même pas sûr.
Si.
Bon, voilà, donc c'est vrai que t'as l'intégralité du 1 dans le 2. Donc, à partir de ce moment-là, si Valve décidait de plus vendre Left 4 Dead 1, honnêtement, je tomberais pas de ma chaise, quoi. Mais là, il y a une raison. Là, NBA 2K Playgrounds, à part fric égale pognon, je vois pas trop le truc.
Non, surtout que je pense que... autant sur un Left 4 Dead ou sur un GTA ou sur des licences comme ça, même un Call of Duty qui, ou un FIFA par exemple. Un FIFA, ça, je pense que ça demande déjà trop de boulot pour être retiré à chaque itération. Chaque jeu demande trop de boulot pour être retiré à chaque itération. Je pense qu'un NBA 2K Playgrounds, je ne sais pas si ça demande masse de boulot une fois que tu as fait le premier. Je ne sais pas si pour en faire un deuxième, si tu as besoin vraiment de centaines et centaines et centaines d'heures de travail. Je pense qu'ils l'ont vraiment vu comme une grosse V2. Et voilà. Ce qui est un peu honteux, c'est que bah, ça ne soit pas offert aux gens qui avaient le 1. Quoi. C'est retiré.
Il faut aussi penser en termes de vente. C'est vrai que je pense que FIFA se vend beaucoup plus que tout ce qui est NBA 2K. Donc au niveau de la popularité des titres, t'as quand même un plus grand impact. Et j'ai des potes qui achètent encore parfois, alors c'est rare, hein, des vieux FIFA. Parce que justement, ça leur rappelle les souvenirs d'une certaine époque, avec certains joueurs, certaines équipes qui étaient avec un certain niveau. C'est possible que ça arrive, alors qu'avec des jeux de basket, il y a peut-être moins de popularité.
Bah, surtout en Europe, à la limite, aux États-Unis, les jeux de basket, c'est quand même relativement populaire.
Il me semble que Playground, c'est pas vraiment un jeu de simulation comme FIFA, c'est plutôt un jeu d'arcade, donc t'as pas le même niveau de réalisme en termes d'effectifs ou d'ambiance que dans un FIFA, par exemple.
Ok, c'est vrai que ça peut jouer aussi.
Parce qu'après, je peux comprendre le mec qui dit « je vais racheter FIFA 07 parce qu'il y avait tel joueur qui était dans telle équipe et c'était sa meilleure période, et puis en plus, c'est rigolo parce que finalement, je connais bien le moteur physique et tout ça, donc je maîtrise un peu le jeu et c'est marrant. » Je peux le comprendre, pourquoi pas. L'avantage, c'est que le mec va pas le payer très cher. Mais c'est vrai que pour des jeux très 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 arcade comme ça, ça a peut-être pas beaucoup de sens, effectivement, de retourner vers le premier numéro. Mais je veux dire... Ça paraît bizarre à dire comme ça, mais Mortal Kombat 2 a pas rendu complètement obsolète Mortal Kombat. Le jeu d'arcade, les deux jeux d'arcade sont un peu différents. Alors je sais pas si c'est le cas, hein. Si ça se trouve NBA 2K Playgrounds 1 et 2, en fait, c'est la même physique, c'est le même truc, c'est vraiment une espèce effectivement de grosse V2, comme tu disais tout à l'heure, Galaxies. Et là, dans ces cas-là, ça peut avoir du sens. Mais je trouve ça dommage qu'on puisse pas se dire, finalement, j'ai le 1, j'ai le 2, et je peux choisir celui auquel j'ai envie de jouer.
Ah oui, après, ça, évidemment, enfin, qu'importe l'explication qu'on met derrière, ça reste quand même une technique de connard. De retirer le jeu du store, parce que bah, t'as des gens qui l'ont payé, et faut pas déconner, quoi.
Surtout, c'est pas un jeu qui a 5-6 ans, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière.
Oui, voilà, moi c'est sûr. En plus, c'est ça qui est assez choquant. C'est, imagine, t'as Final Fantasy 16 qui sort, les mecs retirent le 15 du store, quoi. On en est à peu près là. Alors oui, c'est les plus gros jeux, c'est machin, mais le jour où il y a Final Fantasy 15 Pocket Edition qui sort, ben ils retirent Final Fantasy 15 du store. What? Ça a quand même relativement peu de sens. Bon, je sais pas. Je trouve ça toujours très 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 étrange quand je vois ce genre de choses là. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le dématérialisé. Mais bon. Passons à Rockstar et le culte du crunch. Alors vous savez, Red Dead Redemption 2 va sortir dans relativement peu de temps, c'est d'ici la fin de l'année.
Dans 2 jours.
Dans 2 jours.
Il sort le 26.
Ah ouais, donc là en fait les mecs ils dorment plus depuis 2 semaines au moins.
Ah bah de toute façon le jeu est fini là. Bah, enfin ils vont faire le patch Day One et puis il y a Red Dead Online qui sort après.
Oh, putain la vache, donc, les mecs ils ont pas fini de paroupiller.
Pas fini de morfler.
Oui, voilà, donc c'est le culte du crunch. En fait, Rockstar a un petit peu fanfaronné là-dessus en disant « Bah oui, mais on est en plein crunch pour finir RDR 2, et un crunch assez violent, apparemment. Oui. » Alors, les mecs avaient l'air de dire « C'est quand même très bon. »
Alors, d'après, je crois que c'était Dan Houser, enfin, c'est un de deux Houser, qui est donc les frères tête pensante de GTA et de Rockstar en général, ils se sont dit « On est allé jusqu'à faire jusqu'à des semaines de 100 heures sur le jeu. » Ils se sont après rattrapés en disant oui, mais en fait non, c'est que l'équipe d'écriture et puis c'était pas obligatoire.
Mais bien sûr, c'est pas obligatoire sauf si tu veux garder ton taf.
Si tu veux finir dans les... Ça marche aussi si tu veux des bonus, si tu veux finir dans les crédits du jeu.
En fait, oui, parce que les gens qui partent en plein milieu du développement ne finissaient pas dans les crédits du jeu. Parce que la philosophie de Rockstar, c'était si tu es dans les crédits, tu restes à la fin, faut pas déconner, parce que sinon t'as pas bossé sur le jeu. Qu'importe et le pourcentage de jeu que t'as fait.
T'as foutu 300 heures en 3 semaines sur le jeu, tu te barres en dépression, bah c'est pas grave, on te met pas dans le générique, après tout, ouais. Pourquoi pas.
Si, t'auras ton nom sur une tombe dans le jeu.
suite à cette histoire, il y a pas mal de langues qui sont déliées, que ce soit...
Des langues de pute, comme on en connaît beaucoup.
Bah, des langues de pute, c'est-à-dire.
Je sais pas.
Tu verras après, ok. C'est
on pour verra la peut-être suite. Après. On va, okay, on va peut-être, alors, peut-être se concentrer sur le crunch lui-même, voilà. Parce qu'effectivement, c'est, ça reste quand même un truc très problématique. Je sais pas si c'est spécifique à l'industrie du jeu vidéo ou si ça se joue dans l'industrie du logiciel de manière générale. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus spécifique à l'industrie du jeu vidéo, quand même, cette habitude du crunch.
C'est pas spécifique à l'industrie du jeu vidéo. Canard PC, dans son Crunch Investigation de début d'année, faisait une comparaison pas tout à fait stupide avec la période de bouclage d'un magazine.
Oui, effectivement, ça ressemble. J'ai connu ça. Et la période de bouclage d'une émission d'un dojo bar, c'est à peu près ça aussi.
La période de mise en route aussi. Hein.
Dans les effets spéciaux, dans les films, enfin dans la production des films, à mon avis, ça, on ne doit pas être si long du crunch. Hein.
Alors, non,
pour la post-prod ou pour la pré-prod,
ah ouais,
ou
le, ah non, moi je dirais pour la post-prod, pour les effets spéciaux, parce que quand tu vois, enfin les mecs doivent finir vraiment ric-rac par rapport à la date de sortie. Et on doit pas être loin d'un certain crunch comparable au jeu vidéo. Je sais pas si c'est la même ampleur.
Je sais pas pour la partie post-prod, mais j'ai lu que justement, alors Kotaku a fait un très très bon et très long article à ce sujet en interviewant pas mal de personnes. C'était ça dont je voulais parler en disant que les langues se déliaient. C'est que côté Rockstar, que ce soit de façon officielle ou de façon moins officielle, il y a des gens qui ont beaucoup raconté ce qui se passait. Et notamment, à un moment, ils faisaient une comparaison avec l'industrie du film en disant que justement là-bas, les mecs, ils sont tous mais syndiqués comme des porcs, en tout cas dans la partie, au moins la partie production, film et compagnie, que les process, ils sont extrêmement arrêtés, extrêmement précis, enfin c'est connu, tu vois, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps, t'as beaucoup de personnes là-bas qui sont vraiment expérimentées, ce qui n'est pas le cas dans l'industrie du jeu vidéo, et du coup les gars, c'est, ben, t'as pas fini de tourner tes scènes aujourd'hui, c'est pas grave, moi je me cache, je vais voir ma femme.
Ben, ce qu'on entend beaucoup parler, enfin il y a toujours des exceptions parce qu'il y a des tournages de films absolument catastrophiques à Hollywood où effectivement les mecs bossent des quantités d'heures énormes pour pas grand chose. Je crois que c'était pour Le Seigneur des Anneaux où les mecs disaient de toute façon dès qu'il y a une scène avec un hobbit il y a 3 heures de maquillage avant, donc quoi qu'il arrive c'est de toute façon le bordel à tourner. Mais en gros les mecs font des journées relativement épuisantes pendant la production, mais ils ont des jours de repos, ils ont des jours de récup. C'est pas du 7 jours sur 7, enfin bon, c'est quand même effectivement
maîtrisé.
Je dirais en plus organisé. Alors peut-être parce qu'il y a plus de moyens derrière aussi, hein. Je sais pas si.
Je pense que les gars connaissent aussi leur importance dans la chaîne de production. Suffit de voir la grève des scénaristes qui a eu lieu il y a quand même quelques années. Justement,
une petite dizaine d'années, ouais.
Ouais. Ouais. Dans tout ce qui était série et compagnie, ça a eu un impact monstrueux parce que tous les scénaristes des séries télé se sont mis en grève. Et du coup, ben, les séries télé qui dépendaient d'eux en ont pâti. En fait, ça s'est ressenti dans les mois qu'on suivit en termes de production, où tu avais des séries dont les saisons sont sorties plus tard que prévu, où ont été amputés de certains éléments.
Et il y a énormément de projets qui ont été annulés.
Les mecs savent qu'ils ont cette influence, qu'ils ont ce pouvoir sur leurs décisionnaires, qu'ont pas forcément les développeurs de jeux vidéo qui... c'est souvent ce qui est dit, et je crois que c'est ce qu'on avait parlé avec le SCJV, souvent sont plus jeunes, n'ont pas forcément cette conscience, et on leur fait quand même un joli chantage à l'emploi avec
des trucs à la du passion genre, aussi.
À la passion, ouais. Non, mais c'est ça. On trouve dehors, il y a plein de mecs qui peuvent faire la même chose que toi, juste à les engager. Alors pourquoi est-ce que je ferai un effort pour toi, tu vois? Et je pense que ça joue énormément sur aussi cette capacité de l'industrie à rester dans ce genre de pratique.
Bah, c'est clair que les scénaristes, par exemple, si on reprend la grève des scénaristes d'il y a une dizaine d'années, qui était effectivement un événement important à Hollywood, parce que c'était il n'y a pas que les séries télé qui en ont pâti, il y a aussi des scénaristes de films. En fait, il y a un syndicat des scénaristes, c'est-à-dire que tous les gens qui sont scénaristes, ou quasiment tous, font partie d'une espèce de grosse association qui est là pour défendre les scénaristes, leur rémunération, la façon dont le métier fonctionne, et ainsi de suite.
Il me semble que c'est les guildes, non? Une guilde des réalisateurs,
t'as des trucs comme ça. Ouais.
En anglais, on dit « union ».
Oui,
vous connaissez United Artists, par exemple, c'est les mecs qui ont fait, de temps en temps, là, dans les génériques de certains vieux films, United Artists, en fait, bah, c'est un syndicat. C'est-à-dire que c'est effectivement des acteurs qui se sont regroupés en disant, bah voilà, on impose des conditions qui sont tel, tel et tel truc. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est une industrie, celle du cinéma, qui est extrêmement mature.
Bah, elle est centenaire, hein.
Elle est même peut-être un peu plus que ça au final, parce que alors tu vas me dire le vrai cinéma industriel c'est quand même venu effectivement il y a une bonne centaine d'années, je dirais. Mais voilà, tu t'as une industrie extrêmement mature. De l'autre côté, t'as le jeu vidéo où effectivement ça commence à faire des gros moyens, ça commence à brasser quand même pas mal de pognon, mais au final on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est vrai que ce culte du crunch est quelque chose que je trouve inquiétant, parce que je vois pas dans quel monde on peut arriver à faire de la qualité quand on a des gens qui sont épuisés, qui font du code n'importe comment, et après on se retrouve avec des jeux Ubisoft, quoi.
Ah, je pense que le...
Et encore, Ubisoft n'est pas forcément la société où il y a le plus de crunch.
Et c'est pas les pires, oui. Apparemment, ils sont même plutôt bien organisés, parce qu'il y a beaucoup de sites de production, ils sont capables d'énormément répartir le travail et tout ça. Je pense qu'il y a des... Le pire, ça doit être les studios de taille moyenne, en fait. Les petits studios, je pense, qui n'ont pas tellement de...
Rockstar est très réputé pour être un des pires, ceci dit.
Putain la vache. Parce que Electronic Arts apparemment était aussi réputé pour être un des pires, hein, de ce point de vue.
Ah mais Electronic Arts, ils ont pas de race aussi, c'est différent.
Oui voilà, c'est comme ils sont raceless, les mecs, globalement c'est très compliqué.
C'est une notoriété publique qu'ils ont pas de race, quoi.
Attends, c'était une des pires, je crois que c'était la pire boîte des États-Unis 3 ou 4 ans de suite, quoi, un truc comme ça. C'est quand même non, ouf, parce que les États-Unis t'as quand même Microsoft, t'as Apple, t'as Cisco, t'as quand même des bons connards, quoi.
T'as la NRA. Non, c'est pas une boîte, mais.
Ouais, voilà. Mais c'est voilà. Non mais t'as Google, t'as Facebook, je veux dire tous les gros enculés de la planète, ils sont là. Donc si tu veux, quand on dit c'est Electronic Arts les pires, moi je me dis putain la vache.
Je crois que c'était les pires d'un point de vue consommateur.
Non, c'était les pires d'un point de vue entreprise. Ah. C'était une entreprise la moins appréciée des salariés qui y travaillent, quelque chose comme ça.
Ça c'est très moche.
Mais bon, est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à passer à autre chose et on arrêtera cette espèce de parce qu'il y a quand même une espèce de culture du crunch, quoi. De finalement annoncer des délais complètement délirants pour des jeux. Est-ce que vous croyez que un jour, ça s'arrêtera. J'ai l'impression que les devs de Smash Bros, les devs de...
Putain, oui.
De bah, même de Legend of Zelda, Breath of the Wild et tout ça, ils ont quand même dû en chier quand même...
Et on les entend
un bout,
beaucoup,
et on les a pas beaucoup entendus. Enfin,
alors, c'est les Japonais aussi, hein. C'est une culture du travail qui est différente.
Comparer, voilà. c'est ce que je voulais dire là-bas, mais
ouais, voilà,
tout le monde me coupe, du coup, c'est pas grave. Désolé,
fini, moi j'avais d'autres choses à dire, mais je te laisse.
Non, mais c'est pas grave, voilà. C'est ce que je voulais dire, ils ont quand même une culture de travail qui est totalement différente de la nôtre, et c'est peut-être plus difficile justement de comparer leur manière de voir les choses, parce que nous on a quand même un point de vue qui va être très occidental sur le travail, on a réussi avec la lutte sociale à avoir pas mal d'avantages sociaux, c'est ce qu'ils n'ont pas forcément pu tout savoir, et pour eux c'est aussi un sentiment d'honneur de rester aussi longtemps, enfin en tout cas ça se veut véhiculer ainsi, donc je pense que critiquer comme ça de manière objective ce qu'ils font, même si c'est mal à nos yeux, c'est aussi un peu putassier. Autant on peut gueuler sur les États-Unis parce qu'on connaît un peu la culture, elle est relativement similaire à la nôtre, on va dire, ou en tout cas plus proche. Autant pour le Japon, c'est vrai que j'ai plus de mal à critiquer parce que je me rends pas compte de l'impact que ça a chez leur famille, par exemple.
Alors, ceci dit, les histoires de mecs qui restaient tard au bureau, notamment dans les interviews des personnes chez Nintendo, que ce soit Onuma ou Shigeru Miyamoto, elles sont assez régulières, notamment ben, je sais qu'Oscar Le Maire dans son portrait de Miyamoto sur Ludostree était pas mal revenu là-dessus. Mais après, ça faut pas oublier qu'au Japon, et notamment Nintendo, c'est des sociétés qui sont très secrètes. Les employés ne parlent que très rarement de leur employeur dans ce genre de cas. C'est aussi un pays où ils sont encore dans l'idée, tu rentres dans une entreprise, tu restes toute ta vie et tu grimpes les échelons petit à petit. Au point où ils ont des habitudes de travail qui sont à la limite du ben, tu pars pas tant que ton chef est pas parti. Donc c'est assez compliqué de savoir si eux ils sont aussi dans ce genre de mode là ou pas, en sachant quand même que dans le cas de Nintendo, on est quand même dans une entreprise où ils ont gardé des développeurs pendant des années et des années. Il y a très peu de développeurs qui partent de chez Nintendo, mine de rien. Donc est-ce que eux ils arrivent à retenir les gens parce que finalement ils sont moins là-dedans, ou est-ce que c'est aussi une mentalité japonaise? C'est un peu dur à dire.
Alors, on me souffle à l'oreille, parce qu'il se trouve que Muse travaille dans une grande société du CAC 40 qui fabrique des automobiles, et qui est associée à un constructeur japonais bien connu. Donc on me souffle à l'oreillette qu'en fait le crunch n'est pas forcément qu'une culture du logiciel, mais que dans le développement de projets automobiles, il y a aussi cette espèce de rush. Alors eux, ils appellent ça pas le crunch, ils appellent ça le rush. Le crash planning, voilà, souffle-t-on, okay, très exactement.
C'est la merde, go, go, go.
C'est la merde, go, 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 de fin de projet, et que, apparemment, c'est quand même un truc qui est de plus en plus... Ah, voilà, ça y est, elle va enfin parler. Ah ouais, non, mais voilà, je t'emmerde. Hein.
Appuie sur le bouton.
C'est appuyé sur le bouton, tu es en direct, tu peux parler.
La dame, elle dit que c'est même pas en fin de projet, c'est même carrément en début de projet, où on demande tout de suite, et où on demande même à la base des gens qui travaillent des trucs qu'ils sont incapables de fournir parce qu'on est vraiment tout au début des projets. Ça devient de pire en pire, sous couvert bien évidemment de rentabilité, de faut sortir la voiture le plus vite possible.
D'agilité.
L'agilité,
ça c'est bien, ça, voilà.
Voilà,
donc on te demande combien elle va avoir de roues alors qu'on sait même pas si c'est une voiture. Attendez.
Non, c'est pas ça. On te demande à quel endroit tu vas monter telle pièce. Et tu te dis, bah, attends, deux secondes, déjà on n'a même pas défini les pièces, en plus on n'a même pas défini l'usine, donc cool.
Voilà. Donc vous voyez, ce genre de choses-là existe aussi dans, on va dire, d'autres types d'industries. C'est plus étonnant pour des industriels plus traditionnels, je trouve, mais j'ai l'impression que...
C'est le monde de l'hypercompétitivité, en fait.
C'est peut-être ça. Nous allons dériver progressivement vers... Alors, est-ce que l'hypercompétitivité, c'est bien ?
Non.
Ça va devenir le dojo bar de gauche.
Bah peut-être, comment dire, soyez
le syndico bar.
Mais soyez plus... des Gaulois réfractaires.
Gardez-les longtemps, vos voitures.
Voilà, gardez vos voitures plus longtemps.
Le MEDEF, si tu m'écoutes, quand même un boulot chez toi, donc voilà. D'ailleurs, cherche un stage.
Le MEDEF,
le MEDEF,
ou UDF, je suis pas sûr d'avoir entendu.
Non, le MEDEF.
Non, le MEDEF.
Ah, il a abandonné la République en marche, il s'est dit ah non, le bateau prend l'eau, je m'en vais.
C'est là qu'on voit les foutus influenceurs. La France insoumise, c'est trop anarchique pour lui. Hein.
Voilà, c'est un peu ça le problème. Non, mais c'est vrai que, moi, je le vois un petit peu dans mon entreprise aussi, mais c'est dès qu'il y a en fait des organisations en mode projet, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas organisés pour faire tourner une boîte au sens exploitation courante, mais dès que c'est des gens qui sont organisés seulement en mode projet, les mecs sont effectivement dans cette logique de travailler énormément pendant très peu de temps, c'est-à-dire en tout début de projet, en toute fin de projet pour arriver à les boucler. Zergy disait, c'est les étudiants qui travaillent tout à la bourre avant leurs examens, mais c'est vrai que ça ressemble à ça en fait, qui glandent tout le semestre et qui commencent à bosser qu'au niveau des examens. Et derrière, des grosses périodes de relâche durant lesquelles les mecs branlent rien pendant 6 mois, 9 mois, en étant une espèce d'interprojet. Donc je suis pas sûr que ce soit spécifique aux jeux vidéo, mais je trouve que c'est quand même assez inquiétant comme tendance. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de crunch. Il y avait Tim Schafer qui avait fait faire un reportage quand il faisait Broken Edge, qui était financé, son jeu financé par Kickstarter, qui d'ailleurs apparemment est une grosse merde. J'ai pas joué au jeu.
Il y a eu pire.
Ouais, mais il y a eu mieux apparemment.
Ouais.
Et de Tim Schafer, c'est un peu.
Par Peter Molyneux.
Oui, bon voilà. Mais Peter Molyneux, tu vois. c'est un peu compliqué.
Ou alors,
moi j'ai bien aimé Fable.
Merde.
Fable était bien. Ouais, la BD est pas mal.
Oui. Voilà, arrêtez s'il vous plaît. Mais voilà, Tim Schafer, pendant le reportage, il y a un moment, il voyait passer un mec qui était en mode zombie, il disait ah, ce gars-là, ça fait au moins 3 jours qu'il est pas rentré chez lui, quoi. Et le mec, ça le faisait marrer, en fait.
Et c'est le. Enfin, de toute façon, c'est genre l'aboutissement de. Enfin, de cette. D'une industrie qui est structurée, enfin, qui est pas régulée, quoi.
Mais qu'est-ce qui est surtout structuré uniquement en mode projet, quoi. Il n'y a pas de suivi. Bah,
qui est structuré autour d'une logique libéraliste où tu dis c'est le minimum d'employés pour le maximum de boulot. Et donc, du coup, bah, quand t'as un truc qui doit être fait, tu vas pas embaucher plus de gens. Tu dis bah non, je vais essorer les employés que j'ai.
Et quand tu t'appelles Quantic Dream, en plus, tu leur fais faire des saluts nazis devant le frigo de la boîte.
Ouais,
ou tu leur fais faire des montages en tenue gothique. En tenue SM.
Non, mais ça, bon, ça en vrai, ça c'est là, encore si un autre problème. Je pense que. Je sais pas si. Enfin, il y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de logique d'humiliation derrière le crunch, quoi.
J'en ai marre des brimades.
C'est pas une logique d'humiliation, c'est aussi.
Oui, mais pour le coup, Quantic Dream, parce que vous comparez avec Quantic Dream, c'était vraiment, je pense, méchant.
Non, alors non,
que le crunch, c'est vraiment juste une logique de.
Il y a deux sujets.
C'est vraiment juste une logique de. On a
ils besoin font de crunch aussi. Hein.
Oui, mais ça a rien à voir avec les.
Attendez, Quantic Dream arrive à faire du crunch sur des jeux comme. Enfin, je veux dire, il y a quoi comme reste de jeu à coder dans Détroit ?
C'est des boîtes d'effets spéciaux de jeux.
Oui, non, mais d'accord, mais il n'y a pas de jeu, donc c'est compliqué.
Non, mais le problème, c'est qu'il faut coder toutes les cinématiques. Hein.
Putain, il faut coder à la main toutes les cinématiques. En fait, ce mec aurait dû faire des jeux en FMV, ça aurait été beaucoup plus rapide, finalement. Il y avait juste à diriger des acteurs, puis c'était réglé.
Oui, mais il n'y a pas assez d'émotion.
C'est vrai.
Si tu vois pas les yeux de Merlanfried, Ethan Mars, quand il a perdu son fils pour la seconde fois...
Ouais, même...
En plus, quand tu dois faire des effets spéciaux en FMV, ils voient les effets spéciaux, alors que si tout est un effet spécial. Si tout est un effet spécial, pardon.
On est quand même assez. Quand même, surtout que tu fais de la performance capture, c'est-à-dire que tu forces des acteurs à jouer des rôles pour aller les renumériser, pour aller les remettre sur des faux acteurs qui jouent les mêmes rôles.
Surtout que c'est la même gueule. Bon, enfin, c'est pas le sujet.
Oui, non, mais voilà, c'est...
Bref, dans la même gueule, quoi.
Ça a quand même démarré un magnifique Twitter drama entre William Oduro et Julien Chiez.
Oui, alors attends, magnifique transition.
Ben, vas-y, monsieur influenceur.
Transitionne, vas-y, monsieur
influenceur. C'est l'heure de closer.
Explique-nous le Twitter Game.
Ah, le Twitter Gate. Bah, en gros, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Il y a Julien Chiez. Il y a Julien Chiez. Il y a Julien Chiez.
Pour ceux qui nous écoutent, faut voir le Twitch, là.
Oui, vous ratez quelque chose, venez en direct. Il y a Julien Chiez qui a sorti une vidéo donc, que tout le monde attendait, évidemment, après l'annonce des senteurs. Disant que non, mais les gars, les senteurs, c'est pas si ouf. Avec cette phrase,
je suis désolé, il en a pas fait beaucoup dans sa vie des bouclages de magazines parce que
j'étais à Los Angeles entre deux tours d'hélico, bah non, on se couchait à 1h du mat pour finir nos trucs et on se levait à 6h. Bah attends, c'est quand même une vie de merde qu'on a.
Va te baiser,
et attends, cette phrase qui est aussi célèbre que à grand pouvoir, grande responsabilité, il a dit à jeu exceptionnel, circonstance exceptionnelle, je crois qu'il a dit ça. Ou alors performance exceptionnelle.
Je suis désolé, en plus, c'est pas vrai parce que les films les plus exceptionnels de l'histoire du cinéma ont tous été réalisés. Alors, non, pas tous, il y en a beaucoup qui ont été réalisés dans des conditions exécrables. Mais il y en a une partie énorme.
Je te sortirai Duke Nukem. Duke Nukem Forever. Ils ont bien pris leur temps.
Un crunch de 13 ans. 100 heures par semaine pendant 13 ans pour arriver à sortir ça. Quoi. Pour arriver à sortir un mec qui joue avec son caca devant des prostituées. Parce que c'est à peu près ça. Hein. Voilà.
Alors moi, ceci dit, petite phrase me fait penser à Jar Jar Binks quand dans l'épisode 2, il décide de
Attends, on a comparé Julien Chiez à Jar Jar Binks. Je pense qu'on est arrivé à la fin du game là.
Attends, je voudrais pas faire mieux ce soir, je m'arrête ici.
Je pense qu'on est arrivé au bout du truc.
Attends, du coup, j'ai pas entendu. Il dit quoi?
Et donc, en fait, dans l'épisode 2, pour endiguer la crise sur Kamino, ou je sais plus quelle planète, il donne les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine, ce qui donnera l'Empire Galactique dans l'épisode 3. Et donc, je te dis, la chaise n'a absolument aucune idée de ce que ces paroles vont pouvoir créer dans le monde du jeu vidéo.
Non, c'est Jar Jar Binks, mec. Non, mais sérieusement, et donc, du coup, il y a William Duro qui a dit, enfin, entre autres, hein, parce qu'il y a plein de gens qui, évidemment, se sont foutus de sa gueule parce qu'il dit de la merde. T'as William Oduro qui a dit que bah non, c'était pas des propos qui étaient normaux et que les conditions de travail comme le crunch, des conditions de travail telles sont pas normales et que ça doit absolument pas se reproduire.
Vous venez de dire et Jar Chiez.
Et ça crée de la merde. Et il s'en est pris plein la gueule de la communauté de Julien Chiez. Et ça a duré comme ça quelques jours, à se renvoyer des pics comme un gamin plus du côté de Julien Chiez, je vous l'avoue. Mais
il y
avait les
deux côtés pour être. Nous qui sommes parfaitement neutres dans cette histoire, c'est-à-dire que nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre. C'est compliqué.
Nous n'avons rien contre Julien Chiez.
Souvenons-nous d'une œuvre de Gamecube sur GTA V qui a fait crise des Chiez pendant au moins 3 jours.
Ouais.
Ouais, enfin bon.
C'est quoi ce jeu sinon, Red Dead?
Red Dead Redemption 2, bon, c'est le bide de cette fin d'année.
T'as un jeu où deux cowboys sont sur la montagne. Attends,
les cowboys, avec un film. Et il y a une lettre pour eux.
Oui, bonne bourre. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup. Non mais là, voilà, tu t'as... Bon, je crois qu'on va s'arrêter là.
Oui, on va voilà. Dire à l'oral.
Donc, non, mais c'est voilà, c'est juste pour dire. Là, je pense qu'on faudrait qu'on arrive à en reparler. J'aimerais bien réinviter quelqu'un du STJV parce que c'est vrai qu'on avait fait une excellente émission sur le sujet où on avait vraiment une explication de ce que c'était derrière. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir l'idée de la. En fait, ce qui est intéressant quand tu vois ce genre de choses là, c'est pas forcément de te poser la question du pourquoi ça arrive, mais plus de se poser la question de est-ce que c'est la culture d'entreprise. Et la culture du milieu qui crée ce genre d'événement-là, ou est-ce que c'est ce genre d'événement-là qui finalement va façonner le milieu? Et en réalité, quand tu regardes ça d'un peu loin, tu te rends compte que c'est finalement toujours un peu les deux. C'est, voilà, c'est, normalement, c'est le chien qui remue la queue, c'est pas la queue qui remue le chien, mais de temps en temps,
très belle image.
Les deux s'influencent un peu. Bah, tu sais, c'est je pense que Drosgar va être éventuellement plus loquace que moi sur le sujet, mais il y a des gens qui se sont posés la question depuis très longtemps, est-ce que finalement la loi influence la vie sociale des gens, ou est-ce que c'est la vie sociale des gens qui crée la loi ? Et finalement, est-ce qu'on crée la loi selon les usages, ou est-ce que les usages sont modelés par la loi ? Et en fait, tu te rends compte que c'est un peu les deux.
Bah,
c'est
justement très interdépendant. Galaxis qui m'avait posé une question, là, parce qu'il y avait un problème avec sa prépa, et le sujet que tu avais à traiter... Ah non, c'était l'an dernier en philo.
Ah, l'an dernier, ouais.
Ouais, c'est ça. Et le sujet que tu avais à traiter, c'était est-ce que la loi est là pour consacrer des rapports de force, dans mes souvenirs ?
Ouais, c'était ça.
Et c'est vrai qu'au final, quand on va chercher en fait l'essence de la norme, ça devient tout de suite très intéressant, et on vient à se poser beaucoup de questions philosophiques. On sort totalement du simple domaine juridique, bien entendu, mais là, en l'espèce de ce que tu nous dis, ça revient quand même vraiment à nous questionner sur la valeur même que l'on a. Alors, on parle du travail là, mais la valeur même que l'on a et l'image qu'on a du travail, et cette valeur, elle va évoluer avec le temps.
Tout à fait, oui, non, mais il y a des vraies questions derrière, effectivement. Est-ce que, je dis, dans le reste de l'industrie du logiciel, parce que le jeu vidéo est malgré tout une partie de l'industrie du logiciel, dans le reste de l'industrie du logiciel, est-ce qu'il y a des boîtes qui ont cette culture-là, du crunch, du si tu pars après le patron, c'est que tu vaux pas grand-chose, etc., etc. Cette espèce, alors pas forcément de culture de l'humiliation ou d'aller abaisser certaines personnes parce que elles vont chercher leur gamin à l'école, quoi. Je suis désolé, mais ça arrive à tout le monde. Mais vraiment, cette
ceux
culture
qui pas travailler.
Oui, ceux qui n'aiment pas travailler. De toute façon, si tu fais des gamins, c'est que tu n'aimes pas travailler.
Ouais, ça se connaît.
Voilà, mais...
voilà, le point visuel.
Ça y est, on l'a fait.
On va y aller. Attends, je peux arrêter d'être ici.
C'est con, hein, on était bien partis, là.
On était à 7 pètes misogynes.
Non, mais voilà, on était... franchement, non, on était
ça dérape à chaque fois, hein, voilà. C'est... Désolé.
C'est horrible, hein. C'est horrible, on est vraiment désolé. Bref, non, on va faire une petite pause musicale, du coup, parce que je sens qu'il y a besoin.
Oh oui.
Voilà, mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là parce que Rockstar finalement n'est que c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est un truc qui revient comme une espèce de marotte tous les ans, tous les deux ans. Il y a une affaire de crunch et effectivement de dépression, de burn-out dans le monde du jeu vidéo. On en avait parlé avec le gentil monsieur du STJV. Je pense que ça mériterait d'en reparler aussi, mais peut-être plus pour le côté, je vous dis, culture d'entreprise, culture du secteur. Plus que le crunch lui-même, parce que finalement, ça a relativement peu d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est plus ce qu'il y a autour, je pense.
Surtout voilà, que dans le cas de Rockstar, on en parle aussi parce que c'est vraiment le gros jeu du moment, quoi.
Tout à fait. Non, mais on entend peu Ubisoft sur le sujet, mais ils ont probablement aussi eu des crunchs assez monstrueux. Et apparemment, tout ce qu'on disait tout à l'heure, ça n'a pas l'air d'être les pires. Donc c'est
surtout parce qu'ils en ont vanté. Hein.
Bah, en fait, ils auraient fermé leur gueule. C'est effectivement, peut-être que personne n'aurait rien dit.
Bah, dans le cas de Rockstar, le précédent Red Dead avait apparemment été encore pire en termes dans cette situation-là. Et en fait, c'était les épouses des développeurs qui avaient envoyé des messages sur le web et à l'entreprise pour leur dire « Quand est-ce que je peux revoir mon mec, quand même ?»
Putain, c'est quand même assez violent.
Je peux revoir mon mec un jour, s'il vous plaît.
Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même... C'est assez horrible, quoi. Bon, bref, on va marquer une seconde pause musicale et on va s'écouter un autre morceau de Xenoblade Chronicles 2 Torna, The Golden Country. Merde, j'ai plus de.
Hyper Fighting Turbo Edition.
Merci, voilà beaucoup. Excusez-moi, j'ai réussi à en faire. Voilà, fallait en faire trois différents, on a réussi à en faire trois différents, je suis très content. Le morceau s'appelle Gormoth.
Quel connard, putain. Pardon, le Twitch.
Oui, le Twitch est un connard, ça je confirme. Merci. Donc on va s'écouter Gormoth qui est en fait la musique de la plaine de Gormoth dans lequel on passe quand même un certain temps qui est une espèce de reprise jazzy du thème principal de la plaine de je sais plus quoi dans l'original. C'est vraiment une reprise assez sympa.
Pas du titan de Gormoth.
C'est ça. En fait, le titan de Gormoth c'était une version symphonique normale dans le jeu normal. Là c'est une espèce de reprise jazz qui est très rigolote. Voilà, ça dure un tout petit peu moins de 5 minutes. On se retrouve tout de suite. Nouvelle retour.
tour.
Donc, nous allons enchaîner avec un petit jeu. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez exactement ce que c'est, parce que moi, j'ai rien compris. Et je me suis pas renseigné, en plus.
Parce que je m'en fous. Vilain.
Ah oui, non, mais...
On va devoir faire notre boulot de journaliste.
Bah, voilà.
J'ai pas ma carte de presse, moi.
Oui, mais Galaxies, il a sa carte de presse.
Non, on l'a toujours pas reçue, je suis dingue.
Non, moi aussi. Je voulais aller à Paris avec ça pour aller gratuitement partout. Et en fait, je peux pas.
Mais tu sais, il y a d'autres solutions pour aller gratuitement partout. Ça s'appelle resquiller. Je sais pas si tu connais.
Ah, ou être chômeur et avoir le Navigo gratos.
C'est solution voilà. De gauche, j'adore.
C'est... Mais moi, quand j'étais petit, il y avait un cinéma. Et ben, pour rentrer, on rentrait par le toit parce qu'il y avait une trappe et on descendait derrière en fait.
Attends, c'est
l'écran.
Vrai.
Et oui, c'est vrai. Et comme ça, on payait pas. Mais c'est vrai. Hein. Mais c'était bien comme cinéma.
Ce qui n'est pas faisable à l'UGC actuellement, vu qu'il fait tellement chaud, il n'y a pas d'aération.
Ouais, puis ah en oui, plus, je pense que si tu descends derrière l'écran, tu te prends une petite chute de 30 mètres de haut.
Ah bah oui, mais ça, après, il suffit d'être un peu malin, t'amènes ton échelle, hein, première fois.
Alors, tu prends mieux, hein.
T'as jamais joué à Zelda ou quoi?
C'est oui, voilà, tu grimpes sur l'écran lui-même, à l'arrière.
Tu lances un matelas.
Bon, bah, t'as Zelda, le jeu où tu peux grimper sans prise sur n'importe quoi, y compris des blocs de glace. Je vous invite à essayer de grimper sur un bloc de glace.
Bah déjà, j'en croise pas tous les jours.
Enfin, voilà, déjà, c'est... Ah bah, déjà,
j'ai beau vivre en Auvergne...
T'as pas le truc pour faire des blocs de glace à partir de n'importe quelle surface où il y a de l'eau, y compris une toute petite flaque ridicule où t'arrives à faire jaillir un bloc de glace de 2 mètres de haut. Donc déjà c'est problématique.
Non, ouais, il est transforme.
Voilà, il est bien ce jeu, il est réaliste.
C'est trop pas réaliste, moi j'arrête d'y jouer.
C'est beaucoup mieux que Red Dead Redemption 2, je pense.
Moi je préfère jouer à FIFA, au moins c'est réaliste.
C'est vrai.
Un truc musical, oui.
Avez-vous vu le super bug de FIFA 19 où le mec fait je sais pas quoi sur le coup franc et en fait.
Une gamelle.
Et en fait. En fait, c'est ça. Le truc est juste le je sais pas, le moteur physique pète un plomb et puis personne n'essaie de toucher la balle. Elle rentre dans le but, ça marque pas de but, elle ressort et là le gardien la prend et il la balance dans le but et ça fait but. C'est juste génial. J'adore ce genre de.
Les mecs sont devenus schizophrènes quoi.
Complètement, mais c'est juste génial.
Sabotage.
Donc pour qu'on arrête de faire une émission de gauche, puisque voilà, Antix va nous parler de Old School Musical, mais il va falloir que tu nous expliques ce que c'est d'abord parce que moi j'ai rien vité.
Alors de droite. Alors, c'est extrêmement simple. Dans Old School Musical, il y a trois mots. Il y a Old.
C'est donc un jeu pour les vieux.
Voilà. Il y a School.
C'est donc un jeu pour les jeunes.
Donc, c'est un jeu de 7 à 77 ans. C'est très important. Et enfin, il y a Musical.
Ah, j'ai donc, il y a de la musique et du rythme.
Et voilà. Et en fait, c'est ce troisième mot qui est le plus important, puisque globalement, c'est un jeu de rythme. Et dans ce joli jeu de rythme, pour réussir à passer les niveaux, il faut appuyer sur les... Alors... Des quatre points cardinaux de l'écran, des touches qui vont aller vers le centre, et quand elles arriveront au milieu, il faudra appuyer sur la touche correspondante. Par exemple, une touche qui vient vers le haut, et bien tu appuies sur le bouton haut de ta croix, ou tu appuies sur le bouton, alors c'est X je crois, sur les manettes de Switch, pour pouvoir et bien dire « Hey, j'ai joué la note correctement ». Et si tu le fais en rythme, c'est bien. Si tu le fais pas en rythme, ta barre de vie baisse, et si elle arrive à zéro, tu as perdu.
D'accord, alors c'est quoi la différence avec DDR par exemple ?
Il n'y a pas le tapis.
Ah, alors déjà, ouais. Il n'y a pas de tapis, et en fait, la différence va se situer principalement dans l'univers visuel du jeu, puisque c'est là où la partie old school en fait va prendre tout son sens, puisque c'est finalement un jeu hommage à toute la période 8 bits, 16 bits du jeu vidéo. Tous les niveaux que tu vas traverser en fait, ça va pas juste être des espèces de fonds un peu psychédéliques. Tu vas avoir deux petits personnages dont, alors j'ai oublié les noms, mais globalement.
Alors, journaliste d'investigation, alors t'as Rob et t'as Tib.
Voilà.
Bonne soirée.
Donc Tib et Rob, qui sont frères.
Je rappelle que Galaxy était supposé parler de Old School Musical avec Antix. Hein, voilà.
Donc, oui,
ça, c'est
oui,
à peu près le niveau auquel il est.
Il le fait très très bien pour l'instant.
Des puzzles. Donc Tib et Rob, deux frères qui sont censés sauver le monde du bug. Qui va bientôt le détruire, et en fait pour cela ils vont traverser des niveaux, enfin des
démons. Attendez, ils ont mis un scénario dans un jeu de rythme.
Ah oui, parce qu'en fait ils sont martyrisés par leur daronne. Donc ça c'est le point, ça c'est le...
Alors, c'est une version féminine d'Emmanuel Chat, pour le mot essentiel.
D'accord.
Non, mais c'est exactement ça. T'as une...
Ah oui, donc le mec il arrive et bienvenue dans Capital. c'est ça, en train de dire.
Pas du tout. Attends, non.
Ah oui, cette émission de gauche.
J'avais pas capté. Non, mais voilà, ils sont maraves par leur daronne tous les jours qui les entraînent. Et un jour, il y a des bugs qui suscitent l'attention des jeunes protagonistes. Et ils vont voir ce que c'est. Et alors là, se déclenche le jeu de rythme. Puisque le jeu de rythme, en fait, fait des actions sur ce qu'il y a derrière.
Alors, non, pas tout à fait en fait. Ce qui se passe derrière en fait n'est pas vraiment influencé par, par ta capacité à réussir ou non le jeu, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, parce que du coup t'as pas trop... Le fond en fait il est plus là pour, faire, pour être un petit côté un peu humoristique, assez sympathique, parce que c'est vraiment que de la parodie. Tu vas avoir une espèce de parodie. Une espèce de parodie de Metal Gear où notamment ils vont se foutre de la gueule de la tenue de Quiet, l'héroïne du 5, donc vous savez celle qui est quasiment à poil et qui respire avec la peau, rappelons-le.
Oui, et apparemment il y a eu un gros crunch sur la boob physique de Quiet, parce que la boob physique c'est quand même le truc le plus important dans ce genre de jeu.
Ils ont fait appel à nos amis de Team Ninja pour faire ça.
Attends, ils ont fait de la performance capture sur du boobs, hein.
C'est ça. Donc voilà, ah magnifique sur Twitch. Donc pour ceux qui sont sur Twitch, c'est très radiophonique.
Qualité extrême.
Ah, en plus c'est en 70 images par seconde, hein, vous pouvez pas faire plus fluide. C'est quoi cette diapo Galaxy, arrête ça.
On perd à peu près 90% des frames, mais ne vous inquiétez pas.
Bah, en gros,
mais ça permet de voir un peu le jeu.
Voilà. En gros l'idée c'est qu'en fond les personnages vont se balader dans des univers assez parodiques. De divers jeux, donc là c'est Pokémon actuellement qu'on voit, donc il y a du Metal Gear comme j'ai dit, le vieux Metal Gear, hein, celui sur NEC. Tu vas avoir Outrun, tu vas même avoir du Mega Man, et en fait c'est plus prétexte à un scénario très, très humoristique et très référencé, parce que globalement les mecs se prennent pas la tête sur le scénario. Les héros sont des idiots, hein,
dans Metal Gear tu vas combattre Savat qui est un antivirus,
et d'ailleurs de ce passage très malin où pendant le niveau tu as la base de données virales est à jour et en fait qui va te cacher une partie de tes notes, donc faut que tu joues un petit peu avec
d'accord.
Ça
c'est... oui d'accord, ce qui nous est tous arrivé, hein. La base de Davira est à jour. T'as le truc qui te... pendant que t'es en train de regarder un machin super silencieux.
Grosso merdo, si t'as entre 25 et 35 ans, voire entre 20 et 35 ans, ce jeu en fait tu l'as vécu, parce que les mecs qui l'ont fait, pour les avoir rencontrés à leur soirée de lancement, c'est des gens qui vont être nés c'est des boss 90, mais pas trop quand même, tu vois, genre ils sont 91 grand max.
Ah ouais, voire
ils sont à 89, tu vois. Ce qui est très post 90, 89, je le rappelle. Et c'est surtout un jeu humoristique où. Un enrobage humoristique sur un jeu trine qui est vraiment cool. Le principe marche très bien et j'aime beaucoup les musiques. D'autant qu'ils sont.
Les musiques sont très 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 cool.
Ouais, d'autant qu'ils sont très souvent essayer de se caler un petit peu sur le style musical des jeux qui parodient. Le plus réussi dans ce cas-là étant Metal Slug, où si tu as déjà joué à Metal Slug et tu vois à peu près à quoi ressemblent les musiques, tu lances le niveau et tu as l'impression d'écouter une musique de Metal Slug.
Elles sont un peu chiptune les musiques ou pas?
Ah, c'est totalement du chiptune.
Ah, c'est bon ça.
Et donc voilà, et après pareil pour les univers graphiques, hein, c'est très référencé, donc je parlais du niveau de Metal Slug qui globalement est le plus beau du jeu, puisque je rappelle que Metal Slug est un des plus beaux jeux 2D de tous les temps, et un des mieux animés, apparemment ils ont bien galéré pour le faire.
Avec Night Trap.
Exactement. Et c'est un jeu qui paye pas de mine, qui coûte 13 balles, qui sincèrement, si tu veux faire un bon jeu de rythme avec une histoire vraiment rigolote, parce que je trouve que c'est ça la plus grosse plus-value, c'est le scénario qui est très sympa à suivre, bon si t'aimes bien le côté très référencé. Ça marche plutôt bien, et à côté t'as un mode arcade pour scorer et faire du multijoueur.
D'accord, parce que moi le... Oula. Voilà, on s'entend chez Mecton, c'est pas grave, ça y est, c'est bon.
Le diapo, ça se pose là. Ah d'accord, oui. Bonjour.
Ok, très bien.
Bonjour ma mère.
Ça va, je te kiffe bien. Parce que moi le dernier jeu très très référencé auquel j'ai joué c'était Saturday Morning RPG, et je dois vous avouer que c'était pas un bon souvenir. Donc voilà. Donc c'est un très bon jeu de rythme avec de la chiptune qu'on voit bien du pâté d'un point de vue musique et avec un enrobage rigolo à côté qui ne gâche rien. Par contre, il y a un problème de difficulté, Galaxies.
Ouais,
là, c'est juste que t'es nul.
Pour moi, c'est le seul problème du jeu. C'est-à-dire qu'en normal, le truc est un peu long. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas assez de touches. Genre, t'as des sortes de mini temps morts entre chaque note. Alors qu'en difficile, c'est clairement super galère.
C'est l'enfer sur Terre et c'est l'impression de mourir à chaque fois que tu vois l'écran.
Pour donner un ordre d'idée, le score à la fin t'est donné en pourcentage de notes que t'as réussi. En normal, je suis à genre 91, entre 91 et 95. En difficile, je tombe à 45.
Ah oui, mais donc, c'est pas t'as... normal. Attends, dans un jeu de rythme, pour moi, c'est normal qu'à un moment, il y a des...
Ouais, mais
la difficulté est vraiment par palier pour moi.
Il y a un gros... Pour le coup, peut te faire tout le jeu en normal, mais c'est vrai que le mode difficile, c'est un gros challenge sur lequel faut vraiment être capable de bien gérer les surtouches sur lesquelles tu vas appuyer. Alors, coup de peau, tu peux très bien gérer jouer en même temps au bouton de façade et à la croix, ce qui fait que tu peux répartir un petit peu tes doigts sur la manette. Mais c'est vrai que le mode difficile va beaucoup plus vite que le mode normal et a des enchaînements de touches beaucoup plus compliqués à gérer.
Ouais, c'est surtout ça, parce que dans un jeu de rythme, c'est pas tant le nombre de notes peut-être que les patterns qu'on te fait faire. Et notamment, par exemple, si dans un mode difficile, ce qui est vrai, notamment par exemple dans celui que j'ai dosé, Taiko, c'est-à-dire qu'on va mettre un pattern pendant 2 secondes, on va te le casser, on va t'en remettre un, on va te le casser, on va t'en remettre un. Pour que tu t'adaptes constamment, t'as pas comme dans un mode normal des patterns qui reviennent pendant une dizaine de secondes par exemple. T'as vraiment le besoin de t'adapter constamment. Et là, entre un normal où finalement c'est plutôt tranquille, t'as les mêmes patterns sur toute la musique, et un mode difficile qui t'en envoie plein la gueule constamment, et en plus faut s'adapter à 24, c'est vraiment vraiment chaud.
D'accord, c'est bon à savoir parce qu'effectivement, je pense qu'équilibrer un jeu de rythme, c'est pas si facile que ça. Par exemple, ma Taiko no Tatsujin, je sais pas comment tu fais pour y jouer avec les Joy-Con, moi je trouve ça totalement injouable.
Alors, tu veux dire au bouton ou au motion?
Non, au motion.
C'est imbitable. Surtout que au Joy-Con, t'as un bug une fois, une partie sur 10, qu'importe le mouvement que tu fais, ça te valide ton coup. Ce qui fait que c'est une frustration énorme de dire oui, mais enfin, je pourrais faire n'importe quoi, ça gagnerait quand même quoi.
Du coup, toi, tu jouais au bouton à Taiko no Tatsujin ?
Ouais, j'ai joué au bouton avec deuxième configuration, c'est-à-dire avec les rouges sur les boutons et les bleus sur les gâchettes. Et j'ai joué quand j'ai voulu installer, donc j'ai installé Ozu sur PC et j'ai joué au Joy-Con. En fait, t'as un mode Taiko dans Ozu et j'ai joué au Joy-Con. Et j'y jouais avec la même config, mais au motion control c'est imbitable, même sur Switch. Faut vraiment, au tambour ça doit être drôle, mais au motion control c'est vraiment pas terrible. Surtout que c'est mal reconnu, donc en plus.
Bah ouais, c'est c'est vrai que Taiko no Tatsujin, moi la démo elle m'a plutôt refroidi. Enfin, c'est-à-dire que je me dis, si t'achètes le jeu, t'as vraiment intérêt à acheter le tambourin, et ça me fait chier parce que c'est quand même un peu cher quoi. On n'était pas là-dessus, mais c'est vrai que
t'es plus dans le fun, mais voilà. Mais cela dit, t'as le même problème avec, je pense, Old School Musical, c'est-à-dire que si tu veux vraiment performer, c'est à la manette. Au clavier, tu peux pas.
Alors justement, moi j'avais l'impression, pour avoir testé les deux modes de configuration à la soirée de lancement, je pense qu'au clavier c'est plus simple.
Ah ouais ? Parce que pour le coup, avec une manette, par exemple, quand t'as un enchaînement de 3 boutons très rapide, tu peux balader ton doigt sur les 3 boutons.
Ce qu'avait l'air de dire Antique, c'est qu'il avait plutôt tendance à alterner main gauche main droite quand ça faisait ça.
En fait, c'est ça. Et sur clavier, c'est pareil. Genre, tu peux jouer avec les flèches et avec ZQSD. Et comme tu peux avoir deux doigts. Enfin, tu peux avoir deux doigts de chaque main.
Ah, tu peux jouer
avec
deux, oui, d'accord.
Ouais. Et pour avoir vu des mecs finir des niveaux en difficile à ce moment-là, bon, c'est des gars qui avaient probablement. Soit c'était le créateur du jeu, soit c'était les mecs qui avaient bêta testé. Les mecs géraient au clavier de ouf, quoi. Mais sur des niveaux assez difficiles. Je voulais rajouter, donc j'ai un peu eu l'occasion de discuter avec les développeurs quand j'étais là-bas, et notamment le développeur principal, qui m'avait dit que en fait leur façon d'afficher les touches l'avait énormément modifié tout au long du développement, et notamment la façon actuelle, c'est un truc qu'ils n'avaient jamais pensé, et au début les touches venaient dans tous les côtés, donc c'était un petit peu confus. C'est quelqu'un qui leur avait fait la remarque pendant les playtests, et en gros ils ont fait beaucoup d'essais pour arriver à ce résultat là en termes de gestion des touches.
D'accord, c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a un gros travail d'ergonomie là dessus qui est peut-être pas si évident, parce que d'après ce que tu m'as décrit, ça a l'air d'être quand même très simple. Je me dis c'est très simple, mais c'était peut-être pas si évident que ça d'arriver à cette simplicité.
Voilà, c'est ce qu'ils m'avaient dit, ils ont passé pas mal de temps à y réfléchir. Ils ont fait énormément d'itérations là-dessus. Tu parlais d'équilibrage tout à l'heure, et en fait je pense qu'il y a aussi une grande partie de leur charge de développement qui est partie là-dedans, c'est-à-dire trouver le schéma d'affichage le plus lisible possible. Après, moi je considère qu'il n'est pas toujours parfait, parce que j'ai l'impression que le timing parfois est un petit peu étrange entre le moment où la note arrive au milieu et le moment où il faut appuyer, mais globalement c'est clairement un schéma qui marche quoi. Enfin,
Tu l'as testé à la soirée de lancement ou chez toi après?
Alors j'ai testé à la soirée de lancement, et après j'ai joué chez moi, et essentiellement sur l'écran du gamepad directement.
D'accord, parce que en vrai t'as au début
quand tu lances le jeu la première fois, il te fait faire un test de décalage de son et d'input. Et donc, j'allais dire que peut-être que du coup, à la soirée de lancement, comme c'était pas, t'es pas calé sur toi, peut-être que ça faisait aussi quoi. Ouais. Parce qu'on n'a pas des perceptions, on n'a pas des perceptions identiques quoi.
Bah surtout par la soirée de lancement, le problème principal, j'ai envie de te dire, c'est qu'on n'entendait pas très bien la musique.
Ah, oui, donc c'est
ça restait dans un bar à Paris où des gens n'étaient pas forcément tout seuls. Et puis,
pas très bon, hein, Kawaii Café. Mais oui, ce qui est bien aussi, c'est, et ce que fait pas Taigon Tatsujin, c'est que le jeu au début s'adapte à ta latence en fait. À ta latence de ton périphérique, mais aussi à ta latence perso en fait.
Ce qui est important, mine de rien.
Ouais, ce qui est super agréable, parce que tu sens vraiment que si tu foires, bah c'est vraiment de ta faute. C'est pas, enfin c'est vraiment de, comment dire.
Oui, c'est pas ton setup, ton input voilà, lag, ta télé, ton périphérique, ton Bluetooth. C'est vraiment toi qui as merdé parce que le jeu a dit normalement t'es censé avoir 6 millisecondes entre le moment où je t'affiche le truc et le moment où tu tapes. C'est ce que t'as fait pendant le playtest, ouais. Et derrière t'es à 8, donc t'es dans les choux et faut que t'arrêtes de déconner.
Ouais, par exemple si je sais pas, pendant le, il y a deux tests, il y en a un où t'as une barre au milieu, il y a pas de bruit et la barre va de gauche à droite, donc t'as une barre fixe au milieu et t'as toi ton curseur qui bouge de gauche à droite et tu dois appuyer sur entrée à chaque fois qu'elle passe au milieu, donc ton curseur.
Chaque fois que tu passes sur la barre fixe, tu appuies sur le bouton.
Et t'en as un autre où t'as que le son et tu dois appuyer à chaque fois que ça fait tap. À chaque fois que t'entends tap, tap. Et enfin, c'est un bruit, hein, ça te dit pas tap sur ton clavier. Et ça te permet de te calibrer. Et mine de rien, c'est super utile quoi. Parce que si par exemple il voit sur la barre, tu considères que c'est sur la barre au moment où c'est un poil peut-être à gauche, un poil à droite, je sais pas quoi. Bah, ça va le retranscrire en jeu.
Ah putain, c'est vachement malin en fait.
Il y aura le même décalage quoi. Ce qui fait que si c'est un peu trop à droite, bah, il y aura le décalage qui fait que quand tu considères qu'il est au milieu et que t'as cliqué, bah oui, effectivement, il y avait le même décalage que pendant ton test. Et voilà. Et c'est vraiment super agréable. Et ça, plus le fait que ça soit très lisible, c'est-à-dire qu'il y a deux modes en fait de jeu de rythme entre guillemets. T'alternes entre donc soit les quatre couleurs, donc des boutons. Descendent, enfin qui tombent soit qui viennent de gauche vers le milieu, de droite vers le milieu, de haut vers le milieu, machin. Donc il faut cliquer quand les notes arrivent sur ton rang central, ou alors t'as deux barres, et dans ce cas-là, les notes arrivent du bas de l'écran pour aller vers le haut, et il faut cliquer quand elles sont dans les barres. Et là t'alternes donc entre deux boutons, t'es plus avec les quatre.
Et tu vas plutôt utiliser les boutons de flanc d'ailleurs pour celui-là.
Et ben ça, c'est, enfin ça, les deux sont très lisibles et ça, comment dire, ça, je vois comment c'est avec ce tic d'engage, ça permet d'avoir
un.
Non, on non, mais j'arrive pas à former.
Mortal, tu commences à mon montage, s'il te plaît.
Ça permet d'éviter une certaine frustration. Quoi.
ça permet d'avoir un petit peu aussi de variété et de pas trop se crisper sur les mêmes doigts. Parce que tu vas alterner finalement entre tes doigts sur la façade et tes doigts sur les flancs.
C'est très important de ne jamais se crisper sur ses doigts. Hein. On ne le répète jamais assez. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup alterner gauche-droite, haut-bas d'ailleurs aussi. Hein.
Et puis à finir sur B et A à la fin avant d'appuyer sur
Start. oubliez pas non plus de mettre un peu un coup la langue. Hein. Ça aide aussi à reposer les doigts.
Exactement. Et pour finir là-dessus, ils ont fait pas mal de petits trucs d'ergonomie très sympathiques. Alors quand tu lances le jeu, au moment où tu arrives sur les logos, tu peux appuyer sur X et en fait ça va te lancer directement sur une musique en mode arcade. Et l'autre truc, déjà tu peux refaire toutes les musiques en mode arcade sans t'embêter à avoir les petits dialogues qui viennent un peu te permettre de souffler durant les niveaux. Et aussi le dernier truc qui est sympa, c'est que quand tu veux recommencer, tu peux choisir ta difficulté. C'est-à-dire que si en difficile tu n'y arrives pas, tu peux choisir j'appuie sur start pour faire recommencer et à côté de recommencer, tu as le choix de la difficulté en faisant gauche ou droite.
Donc les mecs ont fait des études d'ergonomie.
Ah, c'est super malin. Hein.
Avant de proposer leur jeu, contrairement à d'autres où on est obligé d'appuyer sur B pour confirmer et sur A pour annuler.
C'est ça.
Hein ? Merci.
Ah oui, et dernière précision, l'écran de Game Over est incroyable.
L'écran de Game Over vaut 13 euros à lui tout seul.
Je pense que l'écran de Game Over, la première fois, vous le verrez, vous vous sentirez légèrement insulté par ce qui se passe.
100 heures de crunch pour le faire.
Et après, vous allez rigoler.
Ça passe, quoi, parce que tout le jeu est super pas bienveillant, mais tu sens que il n'y a rien qui est laissé au hasard.
Y a rien qui est frustrant, quoi.
Et du coup, dans les... quand tu as Game Over, le jeu te propose de passer la manette à ton grand frère.
C'est malin.
Il y a plein de petites phrases comme ça.
Il y a plein de petites phrases.
Ça a l'air très très bien, votre petit... Donc 13 balles sur l'eShop.
Ouais,
jeu de rythme.
C'est des Français d'un studio qui s'appelle La Moutarde. En plus, le nom est drôle. Enfin...
Voilà, donc soutenez l'industrie française du jeu vidéo respectueuse de ses salariés qui ne fait pas de crunch.
Ça, j'en sais rien, mais bon, ils étaient 4. C'est ce que je peux dire.
Bah, peut-être que c'est plus détendu et plus simple quand on est 4 que quand on est 15 ou 20. Ou...
Peut-être plus de pression, mais c'est pas la même au final.
Et c'est peut-être plus simple quand on travaille pas pour Quantic Dream aussi.
Ouais. Aussi.
Pour David, tu veux dire?
Pour non, pour le MC David, maître créateur David. MC David Cage. Ah oui, Tardigrade nous dit, vous me l'avez bien vendu. J'ai fait, ouais, il n'y a pas de problème.
Foncez.
Ce jeu est tellement rétro que votre télé va devenir cathodique. C'est vraiment comme ça que ça
existe. Ah oui, la fiche de l'eShop, ouais.
Et il y a plein de poules aussi. C'est super important dans le scénario, les poules.
François, arrêtez les jeux vidéo, c'est l'heure de manger ma mère. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à ça. On va terminer cette émission en revenant un petit peu sur Xenoblade Chronicles 2, Torna, The Golden Country, 3DS spécial édition.
Les ailes éternelles et l'océan perdu.
Voilà, parce que on a dit beaucoup de conneries en fait il y a 2 semaines.
Un petit peu.
C'est faux.
Déjà, on a dit que c'était un bon jeu.
Non, c'est un bon jeu.
La vérité a évolué.
C'est la post-vérité.
Comme un Pokémon.
Exactement.
Elle est passée dans sa phase un fox. Mais en fait, on avait dit qu'en appuyant sur plus pendant les combats, on pouvait mettre à pause. En fait, non. On peut pas mettre à pause. Du coup, Mecton se rouvre une binouze, tu vois. Tellement voilà. Il est... Alors, je sais pas où est-ce que t'en es, toi, Mecton. Moi, j'ai fini le jeu cet après-midi. Donc, je suis fier de moi.
J'en suis... Comment je suis très content. Sans spoiler... Désert.
D'accord. Donc, je vois où tu en es. Tu en es à très très loin, mais pas tant que ça. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de péripéties derrière.
C'est ce qui est marqué dans le menu, tu sais, sur la carte. C'est pas un pourcentage, il y a marqué
désert.
Très très loin, mais pas tant que ça.
C'est les mathématiques du flou.
J'ai accès...
C'est extrêmement scientifique.
Ah bah j'ai un petit peu, c'est un petit peu plus.
J'ai accès normalement à la totalité du système de combat s'ils ont pas trop changé de truc par rapport à l'original.
Ok.
Oh, comment il met un suspense.
Non, mais c'est intéressant.
En fait, rien, mais pas tellement. S'il y a une petite subtilité, mais c'est pas pour tout de suite.
Ok.
Je vais peut-être voilà. Donc on a dit 2-3 conneries comme ça il y a 2 semaines. Donc je suis désolé. Hein. Désolé. En dehors de ça, y a des trucs qui m'ont un peu fait bizarre dans le jeu, mais au final, je suis assez content que les mecs aient fait ça comme ça. Y a un moment où on te force à faire de la side quest. Et moi, au départ, c'est le genre de truc où je me suis dit, mais c'est quoi cette merde ? Et c'est le genre de truc, moi, quand on me force à faire des quêtes secondaires, ça a vite tendance à me casser les couilles.
Rapport avec le sociogramme ou pas ?
Exactement, okay, rapport d'accord. Avec le sociogramme.
Et... Alors du coup, comme sur le premier, comme je vais le faire au fil de l'eau, peut-être que je vais passer à côté de ce mur.
Alors, ça dépend comment tu... Enfin, moi, ça m'a vraiment dit à un moment, je suis désolé, mais il faut que tu remplisses un peu plus ton sociogramme, sinon tu peux pas avancer l'histoire principale, c'est pas possible.
Ok.
Ça me fait un peu penser au pourcentage d'exploration de Xenoblade X.
C'est presque ça, en fait. Mais du coup, c'est un truc qui, moi, aurait normalement dû me casser les couilles, parce que vous me connaissez, hein, genre la side quest, l'histoire, tout ça, j'en ai un peu rien à foutre.
C'est sûr pas pourquoi je joue à ça, d'ailleurs. Hein. Ça
bah, en fait, le système de combat est super sympa, et c'est vachement stratégique, et en fait, moi, c'est ça qui me plaît. C'est que le système de combat est sympa, et franchement, les décors, les musiques et tout ça, c'est vraiment super agréable à parcourir, je trouve. Autant le chara-design est vraiment à chier, mais le monster design est vraiment sympa et je trouve que l'ensemble des décors, t'es toujours surpris par les décors, t'es toujours surpris par la musique et ça c'est vraiment super agréable.
Ça, alors ça après, transpire le grandiose.
Voilà, il manque un truc quand même, tu peux pas grimper partout contrairement à un autre jeu en monde ouvert.
Ah le truc de merde là.
Breath of the Wild, ouais. C'est okay. Un peu de la merde. Mais...
Pokémon rouge.
Non mais moi ça me manque beaucoup, hein. Il y a vraiment des fois où je me suis dit putain j'aimerais bien grimper là, ça me ferait, plutôt que de faire un détour.
Ah
à
mais
con,
tu me comprends maintenant, j'en avais ça parlé moi il y a un an.
Non mais je comprends même quand j'ai parlé sur notre discussion hyper privée des coulisses, quand j'avais parlé d'Arkham Knight et qu'on m'avait dit, je sais pas si c'était toi qui m'avais dit, mais ça fait pas bizarre de retourner sur quelque chose d'aussi strict. Après un Breath of the Wild.
C'est peut-être moi qui ai dit ça.
Et c'est vrai que ça... Enfin, il a marqué quand même quelque chose, Breath of the Wild.
Bah,
voilà, c'est quand même c'est extrêmement relou de pas pouvoir... Enfin, je sais pas, il y a des libertés comme ça. Je sais pas, t'as une porte, t'as des vitres, tu fais, bah ouais, je veux regarder, quoi. Alors, pourquoi c'est couvert? Pourquoi cette rue est bloquée? Pourquoi il y a tout un tas
mais
de choses
qui sont... T'as plein de trucs qui te paraissent ne plus avoir de sens. Moi, il y a un moment où on m'a dit, faut que t'ailles sur le plateau qui est à tel endroit. Et je me suis dit, ok, bah j'y vais. Et puis à un moment, ah ouais, mais je fais comment pour y aller? Mais en fait, faut faire tout le tour pour aller prendre une espèce de rampe. Pour aller... Je me suis dit, putain, mais c'est casse-couille, je pourrais pas juste grimper, quoi.
Oui, non, mais c'est... Et c'est...
Mais c'est con, hein. C'est très
terrible.
Con, hein.
Ça, c'est aller retourner sur un Call of Duty après. Ou quand t'as une barrière qui fait la taille d'un escabeau pour gamin. Ton mec est bloqué alors qu'il désingue la moitié de la population.
Non, un buisson, ma seule faiblesse.
C'est comme les buissons dans Pokémon.
Putain, les bâtards.
Non, mais c'est super frustrant. Alors que pourtant, ça a rien à voir. Le jeu a rien à voir, clairement. Tu pourrais dire, bah non, c'est une proposition différente. Tu vois, c'est ce que j'avais sorti pour Arkham Knight. Mais clairement, c'est frustrant.
Ah, bah, moi, je sais que GTA 5, j'ai eu le même problème. Hein, quand j'ai rejoué à GTA 5 après Zelda et que le mec il galérait à monter une petite falaise, j'étais.
Ouais, voilà, bon, bref. Mais du coup, le jeu te force à remplir le sociogramme. Et donc, au départ, j'étais là, genre, mais vraiment, il va falloir que j'aille faire des quêtes secondaires. Il va falloir que j'aille farmer le jeu.
Socialiser relou.
Socialiser relou et tout.
J'aime pas les gens.
Et en fait...
Est-ce que je peux pas plutôt Tinder les meufs pour faire un sociogramme?
Est-ce que je peux mettre mon pistolet sur le Tinder pour... Excusez-moi, c'est pas bien ce que je fais. Et en fait, non, je trouve que ça rend vachement bien parce qu'en fait, tu sais comment ça va se terminer ce DLC, de toute façon. Si t'as fait le jeu principal, tu sais que ça va se terminer. Et c'est pas un gros spoil, ça va mal se terminer.
Ça participe à l'ambiance, d'ailleurs, de savoir...
Exactement. Et en fait, moi, ça m'a rappelé un peu Majora's Mask, où finalement, les gens font... Tu fais tout un tas de quêtes de masques et tout. Tu fais tout un tas de trucs qui n'ont finalement que peu d'intérêt et peu de sens au regard de ce qui va leur tomber sur la gueule aux gens. C'est-à-dire que c'est la fin du monde dans 3 jours. Tout le monde en est conscient. Mais les gens continuent à vivre leur petit train-train comme si de rien n'était. Et t'as une espèce d'énorme décalage comme ça entre ce que t'accomplis comme quête qui finalement consiste à aller amener une fleur à machin, se débrouiller pour que ce truc aille retrouver je sais pas qui, aller amener des insectes à bidule et des trucs à construire une machine qui va servir à rien. Elle sera détruite dans une semaine, ta machine, de toute façon. Mais c'est ça, t'as un gros décalage entre ce que les personnages te demandent et la réalité de ce monde qui va, dont tu sais très bien qu'il va crever.
C'est ça qu'on appelle une ironie dramatique, c'est ça ?
C'est peut-être ça, mais ça rend l'ensemble de la partie sociogramme vachement plus effectivement ironique et du coup vachement plus intéressante à faire. Et je trouve que le déroulement du jeu, vraiment le pacing du jeu, c'est-à-dire la façon dont le jeu avance, est vachement plus agréable que sur Xenoblade Chronicles 2, où chaque fois qu'on te demandait de faire une espèce de quête secondaire obligatoire, il y en a quelques-unes. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux plus avancer, faut que tu ailles faire une quête secondaire pour acquérir une compétence de terrain qui te permet de passer. Bah, ça te casse tout le rythme du jeu. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être dans la bataille épique de fin. Moi, ça m'est arrivé dans la bataille épique de fin en plus. Ouais. C'est-à-dire que la bataille épique de fin, le sort du monde se joue, et non, faut que j'aille faire une quête secondaire de merde à un endroit qui n'a rien à voir, parce que j'ai pas la compétence qu'il faut pour aller débloquer tel truc. C'est juste casse-burne. C'est-à-dire que t'as l'impression que tu t'es en train de sauver le monde, et qu'on te fait chier pour aller chercher de l'essence pour la bagnole. Merci, bonjour Final Fantasy XV.
Oui, c'est ça, exactement ça.
Voilà. Alors qu'à côté de ça, sur Torna, en fait, tu sais que de toute façon le monde est condamné, donc si tu vas plus vite, ça change rien. Tu vas juste accélérer la chute. Donc globalement, le fait d'aller remplir le sociogramme et d'aller faire de la quête secondaire, bah en fait, ça rend le jeu vachement plus agréable. T'apprends à connaître le monde et ça lui donne une véritable importance au moment où ça se casse la gueule.
Est-ce que le fait que le monde soit plus petit finalement facilite pas cet attachement au... Parce que je crois qu'il y a que 2 titans au final.
Il y a que 2 titans, il y a que 5 zones au total.
Au lieu de.
Au lieu des 7
dizaines de titans.
Dizaines de zones dans 2.
Et en fait, ta remarque, je la prends exactement comme ça. C'est effectivement un des facteurs qui fait que j'ai plus aimé le jeu, parce que finalement, le fait de te faire remplir le sociogramme, de t'obliger à faire des quêtes secondaires, ça t'oblige aussi à mieux connaître le terrain, à mieux connaître les gens, à mieux connaître les décors. Et en fait, ce monde qui finalement est beaucoup plus petit que celui de Xenoblade 2, bah, il est beaucoup plus riche parce que t'es obligé de l'explorer. Xenoblade 2, il y a clairement des titans, j'y ai foutu les pieds pendant 10 minutes le temps de faire un bout d'histoire principale, et je n'y suis jamais retourné.
Mmh. Ou est-ce que ce Xenoblade 2 serait pas un petit peu le Majora's Mask de Xenoblade 2?
C'est l'idée.
Peut-être pas à ce point-là, parce qu'il y a pas, y a plein de trucs qui manquent par rapport à Xenoblade 2, il y a plein de niveaux de lecture qui manquent et tout ça par rapport à Majora's Mask, où il y a un nombre d'interprétations et de niveaux de lecture délirants. Je vous invite à réécouter le dojo bar qu'on avait fait consacré à Majora's Mask, si vous avez fait le jeu, parce qu'on spoil, mais comme des porcs, Mais il y a, bon, y a beaucoup plus de trucs que ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait de dire finalement, on fait une aventure plus petite, donc plus focalisée. Et finalement, comme c'est plus petit et plus focalisé, on va pas essayer de faire un grand truc épique, on va essayer de faire plutôt tout un tas de petites quêtes qui vont pas forcément toutes se rejoindre, mais certaines se rejoignent et c'est assez amusant. Il y a plein d'humour en plus dedans, c'est-à-dire que les mecs se sont permis des blagues qui se seraient pas permis. On a déjà parlé d'une des blagues un peu rigolote du truc, c'est genre, ah mais c'est rigolo quand la lame file son arme au pilote. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'on a pas le thune pour acheter, on a pas de thune pour acheter deux épées, gros. Et en fait, il y en a plein d'autres, des petites remarques à la con comme ça.
Il y en a une que j'ai bien aimé, c'est genre, t'as une petite quête secondaire sur une pilote qui s'appelle Lila, je sais plus quoi.
Oui.
Et sa quête se termine genre, ah bah, si je meurs ici, j'aimerais bien que cet endroit porte mon nom. Bon, j'ai relancé le Xeno 2 complet, effectivement, cet endroit porte son nom.
Voilà, mais t'as plein de petites remarques. Alors, t'as plein de petits clins d'œil avec Xenoblade 2, effectivement. Mais t'as plein aussi, t'as des panoramas secrets. C'est-à-dire que si t'arrives à explorer certains endroits et atteindre certains endroits assez difficiles d'accès.
Tu en avais un dans le jeu complet.
T'en avais dans le jeu complet, j'en ai pas trouvé un seul. Là, j'en ai trouvé en deux ou trois. C'est-à-dire que je suis vraiment arrivé dans un coin où, pouf, tout d'un coup, le décor change et paf, t'as une espèce de vue magnifique sur l'ensemble de la vallée de Gormoth, par exemple. T'as une vue magnifique sur l'ensemble de ce truc-là. Et c'est super cool parce que t'as vraiment l'impression d'avoir découvert un truc. Encore une fois, je vais faire un parallèle avec Zelda. C'est comme dans Zelda, quand tu prends le détour d'un chemin un peu planqué, et tout d'un coup, paf, tu trouves un temple. T'es super content d'avoir trouvé ce truc-là. T'as l'impression d'avoir fait la découverte du siècle, alors qu'en fait, il y a des milliers de gens qui l'ont trouvé aussi, il y a pas de problème. Mais toi, t'es super fier de toi parce que même sans regarder la carte, sans utiliser le détecteur, t'as trouvé ce truc-là. Et je retrouve un peu cette sensation-là. Et donc, effectivement, une aventure plus petite, plus focalisée, qui se termine en une quinzaine d'heures, donc t'as quand même un peu de contenu.
Ah, d'accord, ok.
C'est plus petit, mais c'est...
Non, mais voilà. J'en suis à 15 heures et je pense pas avoir fait le tiers, du coup.
Moi, je l'ai fini, en 15 heures.
Ok, d'accord.
Donc, j'ai l'habitude de... Les jeux, en général, j'ai plus tendance à les rusher, donc c'est vrai que...
D'accord.
Si tu prends ton temps, il y a moyen que ça...
Ouais. Voilà. J'ai visé 30-40 heures, je pense.
Les gens les plus longs, j'ai vu, faisaient 25 heures.
Pour les soirées.
Ouais, mais après, toi, si tu le finis vraiment à 100%, c'est un peu différent. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment... Dès que j'ai vu que le sociogramme était suffisamment rempli, à un certain moment, j'ai fait « Ok, bah, je vais aller faire ça », et à un autre moment, j'ai été faire ça. Enfin, je l'ai vraiment été en mode « J'ai envie d'aller finir le jeu et de voir la fin ». Voilà, donc c'est plus focalisé, plus petit, du coup plus agréable. Du coup, je comprends un petit peu un truc que j'avais jamais compris. On m'avait toujours dit « Shenmue », c'est un jeu en monde ouvert, mais tout petit, et dans lequel finalement, il y a plein de détails. Et c'est ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il y ait plein de détails, parce que c'est vraiment tout petit, mais en fait si tu t'intéresses pas aux détails, ça marchera pas. Et en fait je trouve que ce DLC ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que finalement il y a plein de détails, il y a plein de petits trucs à faire, il y a plein de petites quêtes secondaires à faire, on te force un peu à les faire pour te dire regarde, il y a quand même plein de contenu dedans, c'est dommage de passer à côté. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt du jeu, parce que tu vas apprendre à connaître plein de gens, tu vas apprendre à connaître les habitudes des Torniens, les habitudes des Gormothiens, la façon dont tout un tas de trucs fonctionnent, les flux des créatures sur la carte, parce qu'en fait, elles sont pas complètement fixes. Elles bougent un petit peu par rapport à Xenoblade 2, où t'avais plutôt des endroits fixes où il y a des créatures. T'as plus de créatures uniques, qui sont en général plus difficiles à battre. Les mecs ont... C'est le seul truc plus difficile. Hein.
C'est là où est le challenge, en fait.
Voilà, parce que moi,
globalement, il est plus facile. Globalement, il est plus facile.
C'est ça qui est plus drôle dans Xenoblade, c'est les créatures uniques.
Ouais, voilà, parce qu'en fait, dans le 2, il y a vraiment des passages où j'ai galéré. Mais parce que je faisais quasiment pas de quête secondaire, donc j'avais pas d'XP supplémentaire, j'étais vraiment au ras des pâquerettes en termes de level systématiquement. Donc il y a vraiment des passages où j'en ai chié. Là, dans Xenoblade 2, comme on te force à faire des quêtes secondaires à certains moments, bah à la fin, le jeu, je lui roulais dessus, quoi. Je suis à le boss de fin, j'avais 4-5 niveaux de plus que lui, donc j'ai pas pulvérisé, parce qu'il est assez balèze et qu'il y a 2-3 trucs qui font que tu peux pas vraiment le pulvériser. Mais je sentais bien que fallait pas trop que je fasse le con et que de temps en temps, les sorts de soins, fallait les lancer au bon moment, quoi. Donc c'est de ce point de vue-là, c'est très agréable. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé.
DLC de qualité.
C'est ça, j'ai plus aimé que le jeu principal parce que je trouve que plus petit, plus focalisé, du coup plus agréable à parcourir.
On est d'accord, si tu n'as pas fait le jeu principal, il a peut-être pas la même saveur.
Je sais pas. Moi j'aurais tendance à dire c'est une bonne introduction au jeu principal parce que les changements qui ont été faits sur le système de jeu, je trouve qu'ils sont
un peu simplifiés. Ouais.
Est-ce que ce serait pas dur de revenir en arrière après, en termes de système de jeu ? C'est plus agréable.
C'est ce que je me pose comme question. Alors, on nous demande, il est à combien ? Il est en physique.
30 balles, je crois.
Il est à 30 balles et en.
Avec le Season Pass, du coup.
Avec le Season Pass et tout le bordel.
Quand il est à 30 balles, c'est qu'on vous donne 30 balles hein, si vous l'achetez.
Oui, tout à fait.
Évidemment.
On vous donne 30 balles.
Le Season Pass aussi est à 30 euros pour la version des maths.
Ouais, le truc, c'est que je me dis, ça va être compliqué de revenir là. Il y a un truc en particulier qui m'avait fait bien rager sur Xenoblade 2, qui était... Il y a un certain personnage qui a une capacité qui s'appelle je sais pas comment, et qui fait que tu sais, t'as des chaînes rouges autour de ta lame.
Oui.
Et tu peux plus lancer de dards.
Des blocages, ils appellent ça.
C'est ça. Et moi, c'est le genre de truc qui me faisait mes limites rage quit dans certains moments, parce que c'est juste, tout d'un coup, le mec lance... Enfin, l'ennemi lance ça... Et puis bah tu peux plus lancer d'art, donc en fait t'as tout ton combo qui est en train de se casser la gueule, tu peux pas changer de lame. Enfin, c'est vraiment le truc qui te prend la tête. Et là, comme finalement ton pilote se bat à des sorts de. Ouais. C'est pas des arts.
Des arts à lui, si,
c'est ça, des arts. T'as des trucs de soutien, donc ton pilote continue à soigner, balancer de la merde et tout ça, pendant que la lame est en train de se battre, et que tu peux quand même les inverser, bah voilà, quand il y a un blocage qui est lancé, paf, tu reviens sur le pilote et tu peux quand même continuer à te foutre sur la gueule. Et ça, rien que ça, par exemple, c'est génial, ouais. Quoi.
Après, voilà, t'es moins branché scénario, mais dans mon esprit, je reste à penser que si on n'a pas fait le jeu principal avant, il y a certains enjeux sur lesquels on met pas forcément le même poids émotionnel, quoi.
Et du coup, ça spoil aussi pas mal de révélations du jeu principal. Je dis pas qu'elles sont bien cachées et tout, mais typiquement les relations entre certains personnages.
Il y a un truc notamment qui est vraiment clairement spoilé, parce que les mecs, ils y vont pas. Enfin voilà, ils disent clairement, celui-là c'est l'un méchant. Voilà, il y a pas de, il y a même pas d'intro, il y a même pas de machin. Ils partent du principe que tu l'as fait le jeu principal.
En même temps, il est en noir et puis il rigole comme un méchant, donc.
Oui, et puis il a une coiffure de merde, donc forcément c'est un méchant.
C'est un personnage de Nomura.
C'est Eric Zemmour.
Non mais
quoi, quoi
Julien Chiez. Non mais voilà, mais je trouve que, enfin je sais pas, si je devais recommander Xenoblade 2 à quelqu'un, je lui dirais peut-être quand même de commencer par le DLC, parce que je trouve que rien que pour le système de combat un peu épuré, et puis même j'ai beaucoup plus profité finalement de l'univers, pas forcément du scénario, mais de l'univers. Vraiment juste l'univers, c'est-à-dire dans le DLC, parce que j'ai fait les quêtes secondaires, parce que j'y étais obligé au départ, mais à un moment je me suis un peu pris au jeu, et en fait les quêtes secondaires, même si c'est des quêtes de merde, hein, t'as beaucoup de quêtes FedEx à la con, mais le fait est, le mec te dise « Ah, faut aller à la plaine de Hibert pour faire ça », bah tu dis « Ah ok, mais Hibert, tu sais où c'est ?» Et en fait, pouf, tu vas sur la carte, tu fais ça, tu sais qu'il faut aller là.
C'est
vachement agréable, parce que finalement t'es beaucoup plus imprégné dans l'univers que Xenoblade 2, il y a vraiment un titan, j'y ai passé, mais moins de 10 minutes, quoi.
Le Indol, j'imagine.
Je sais même pas.
Ça doit être celui où t'affrontes l'espèce d'araignée géante, je pense, non ?
C'est ça.
Ouais, voilà. Non, mais en même temps, y a rien à faire là-bas.
Ok, d'accord, la grande plaine, machin, ouais.
Mais y en a d'autres, hein, des titans où j'ai vraiment rien fait. C'est-à-dire, j'ai vraiment traversé le truc en mode, bon, bah, je vais du point A au point B. Au point B, on me dit qu'il faut aller sur tel truc. Très bien, j'y vais, je réfléchis pas.
Voilà. Bah, moi, ceci dit, sur la fin du jeu, du premier du Xenoblade 2, même sur le premier d'ailleurs, hein, passé un certain moment dans les deux cas, en fait, je sais plus de faire les quêtes annexes, c'était genre je suis le fil du scénario, quoi, parce que j'en avais juste plus rien à faire.
Ok.
Bah, là, moi, je trouve que dans le DLC, quand j'ai. T'as deux moments. Spoiler un tout petit peu, il y a un moment où on te dit voilà, faut que t'atteignes le niveau 2 du sociogramme, donc faut t'atteindre le niveau 2 de solidarité. Ils te disent voilà, faut que tu fasses des quêtes secondaires et machin. Donc au début, le sociogramme, moi j'avais vu ça, il y a des quêtes secondaires, je m'en étais pas du tout occupé. Et à un moment, le truc arrive et te dit vas-y, il faut que tu fasses ça. Donc tu fais une ou deux quêtes, pouf, tu passes au niveau 1, tu passes au niveau 2, tu vois qu'il faut quand même faire pas mal de quêtes. Alors ce qui est rigolo, c'est que. En fait, c'est une quinzaine de personnages, mais dès que t'as une quête où il y a trois personnages qui sont impliqués, bah, ça fait trois persos dans ton sociogramme.
D'accord.
Donc tu peux aller plus vite que ça en fait.
Ok.
Donc ça c'est cool. Et à un moment, il y a un autre moment dans le jeu, on te dit, bah, faudrait atteindre le niveau 4 avant de pouvoir continuer. T'as deux moments comme ça où on te dit vraiment explicitement, bah, je suis désolé, faut atteindre le niveau 4 du sociogramme pour continuer, faut atteindre le niveau 2 du sociogramme pour continuer, ainsi de suite. J'ai atteint le niveau 4 et je me suis dit, merde, c'est con, j'avais commencé cette quête-là, je l'avais pas finie, je la finirais bien. Et en fait, j'ai été la finir. Et il y en a une ou deux autres comme ça que j'ai fait, mais juste pour le plaisir d'aller faire de la quête secondaire.
Ouais, parce que c'est pas frustrant, ça, d'être bloqué complètement dans sa progression, parce que...
Et tu me connais, je suis le genre de mec, on me dit, faut obligatoirement faire ça, et c'est une quête secondaire, ça me pète le cul, hein, vraiment, hein, ça me fout la gerbe, j'ai pas envie. Mais, là, c'est tellement... Ça participe tellement au pacing du jeu, et ça te permet tellement d'aller bien maîtriser ce que tu fais dans chaque région, et d'aller comprendre un peu plus... comment les habitants fonctionnent, quels sont leurs petits problèmes finalement quotidiens, la culture de Torna derrière. C'est même pas du scénario, hein, c'est vraiment de l'univers, du développement du lore et tout ça, que je trouve ça cool. Et en fait, ça ne pose vraiment aucun problème.
Ça permet de dire, t'as pas de niveau pour continuer, tu vas galérer, va faire 2-3 quêtes pour t'entraîner, et puis voilà.
C'est presque ça. C'est une espèce d'excuse un peu moisie, c'est une espèce de prétexte de merde quand même de dire « bah faut que t'atteignes tel niveau du sociogramme pour le faire ». Mais comme ça t'oblige à combattre, comme ça t'oblige à aller faire ça, comme ça t'oblige à pratiquer, et je te dis, à découvrir un peu l'univers, à visiter des régions que t'aurais jamais visitées si on t'avait pas forcé à aller à tel endroit pour aller faire tel truc.
En gros, le DLC c'est t'a cool. orienté pour que tu fasses tout ce que j'ai fait qui fait que j'ai autant accroché au jeu principal.
C'est ça. Et je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que le DLC te force...
Mais là, tu étais plus invité, faire des trucs. Ouais.
Dans le jeu principal, tu étais invité, mais t'étais pas obligé. Simplement, ça te simplifiait parce que forcément, tu gagnais plus de niveaux en faisant ça.
Voilà, du coup, des murs d'XP que toi, t'as buté dessus. Moi, je les ai pas vus, quoi.
Si on m'avait dans le jeu principal à certains moments forcé en disant, bah écoute, tu viens de découvrir un titan. Faut quand même que tu découvres un peu qui sont ses habitants, comment fonctionne la garde du fort d'Aleta. C'est intéressant, tu vois.
Aller causer avec tout le monde avant de passer à la suite.
Exactement. Alors, c'est con parce que finalement, on te force à le faire. Mais derrière, tu y trouves ton intérêt très vite. Et du coup, je trouve que ça passe très bien. Et vraiment, j'ai super apprécié le DLC plus que le jeu principal.
Ok.
Donc ça m'a pas forcément donné envie de refaire le jeu principal. Mais par exemple, tu vois, il y a un truc à la con, dans le jeu principal, toutes les quêtes qui sont liées à Mipon, là, Jean-Michel Nopon.
Ah, j'ai cru que t'allais parler des quêtes de l'âme, mais ok.
Non, les quêtes de l'âme, c'était chiant. Oui, ça, c'était à peu près sans intérêt.
C'est du contenu... ouais, voilà, c'est...
Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. S'il y en a une qui est intéressante. Une qui est intéressante, machine là qui descend un bateau parce que ça lui plaît pas. Celle-là, elle était marrante. Parce que était un petit peu intéressante même d'un point de vue de développement du perso, mais voilà. Mais voilà, le nopon avec les lames artificielles, machin, quand tu vois la galère que c'est, mais c'est voilà, moi j'ai raccroché tout de suite, j'ai fait ok, très bien, je vais prendre un autre perso pour faire le tank, et ça va très bien, on va prendre Morag pour faire le tank, et ça va très bien se passer. Et en fait, Morag fait très très bien le tank jusqu'au bout du truc, et ça se passe très très bien, donc j'ai aucun souci. Et pareil, le coup de machin, c'est un récupérateur, je crois que le fait que c'est un récupérateur, on doit s'en servir deux fois dans le scénario.
Je sais plus. Ouais, ça sert dans des petites quêtes secondaires, mais...
Ouais, mais enfin, voilà, ça sert à quoi
saute nous... Ouais, ça saute complètement du DLC.
Ça saute complètement et c'est pas plus mal. Parce que...
Il y a un petit clin d'œil là-dessus, mais sur des persos secondaires.
C'est ça. Mais je comprends toujours pas pourquoi on nous a dit c'est un récupérateur. Personne te dit à quoi ça sert d'être récupérateur.
Ouais, c'est parce qu'il y a pas de paysans, voilà.
Non, mais même, il y a pas de... Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue gameplay, parce que c'est de la merde.
Et c'est quoi, récupérateur?
C'est un QTE.
En fait, le personnage que t'incarnes dans Xenoblade 2 est un récupérateur, c'est-à-dire qu'il va aller plonger dans la mer de nuages pour ramener des merdes.
Alors
mais ça sert à rien dans le scénario, ça sert à rien d'un point de vue gameplay, c'est inutile, c'est pas comme si le mec faisait partie de la guilde des récupérateurs qui était super respecté pour que ça. Tout le monde s'en bat les couilles des récupérateurs, et au bout de 2 heures de jeu, t'en entends plus jamais parler. Donc c'est genre le truc, je me demande pourquoi c'était là. Là, les mecs, ils ont oublié, pareil pour les lames secondaires, celles qui n'ont aucune personnalité et tout ça. Le fait qu'ils aient viré ça et te disent...
Les randoms, elles sont sur les PNJ maintenant, ouais.
Ouais, complètement. Mais là, ils te filent des vraies lames qui ont une vraie personnalité, qui peuvent vraiment développer, et on arrête les conneries, quoi.
Et d'ailleurs, ouais, bon, j'insiste, mais quel putain de doublage.
Oui, le doublage est vraiment toujours très 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 bon.
Puis du coup, voilà, ça participe vraiment à l'écriture des personnages, et... ont un caractère qui est légèrement différent du jeu principal. Du coup, c'est intéressant de les voir évoluer.
Effectivement. Surtout, Brigitte.
Mitra. Ouais.
Mitra aussi, mais Brigitte, Brigitte, moi je trouve qu'elle a un petit truc. Mais il y a que finalement 2 ou 3 trucs que je trouve un peu, peut-être pas dommage, mais on va dire très bizarre. Le premier, c'est que j'ai jamais su quoi faire de ma thune, c'est-à-dire qu'il y a très peu de magasins.
Bah, il est beaucoup plus facile, et de la thune, on en manque jamais.
Bah, j'ai fait très peu d'achats, mais de la thune, on en manque effectivement jamais. Et il y a quand même toujours ces histoires de compétences de terrain qui de temps en temps te bloquent. Alors beaucoup moins parce que on te donne des vraies indications.
Voilà. Antix, genre utiliser l'objet préféré de machin. Là, on te dit lequel c'est.
Ah ouais, j'avoue, c'est mieux.
Ouais.
Voilà. Moi, je me suis retrouvé un machin, c'est pour débloquer telle compétence de terrain, utiliser l'objet talisman de je sais pas quoi pour débloquer telle compétence de terrain. Et en fait, quand tu regardes, tu vas à un feu de camp, l'objet talisman, bah, tu peux le fabriquer. Et en fait, on te donne la liste des ingrédients. Et en fait, les ingrédients, ils sont assez faciles à aller ramasser. Donc, en allez, 5 minutes, t'as fabriqué le talisman, tu l'as mis dans la sacoche du mec, pouf, ça y est, il a gagné son truc, et tu vas aller faire ton truc machin. Donc ça fait un peu de side quest dans la side quest finalement, parce que pour aller suivre telle mission secondaire, t'es obligé d'aller faire, d'aller acheter ou d'aller chercher tel élément du bois de je sais pas quoi, pour aller fabriquer le talisman, pour que le mec ait le bon niveau. Donc ça fait un peu bizarre comme cheminement, mais tu t'en sors très vite et t'es pas obligé d'aller sur un wiki pour savoir c'est quoi son putain d'objet de merde qu'il faut aller mettre dans cette putain de sacoche. Parce que bite, d'un moment.
Donc ça faisait partie du truc un petit peu relou du...
Ouais, non, mais c'est un défaut d'ergonomie. Pareil, un autre truc super bien, c'est que tu peux changer l'élément de ton arme pour ton pilote dans le menu.
Oui, j'ai vu ça.
C'est putain ouf. De génie. Donc si tu vois que t'as des enchaînements, que t'as du mal à sortir parce que t'as un fouet de feu, bah, tu prends un fouet de glace et puis pff, tu sors tes enchaînements, quoi. Et tu te fais beaucoup moins chier. Donc t'adaptes vraiment ta stratégie à ta façon de jouer et c'est pas t'es obligé de faire en fonction des lames que t'as et des trucs que t'as. Et franchement ça c'est pas mal non plus. Donc, voilà, moi Xenoblade 2, le retour de la vengeance, je pense que j'écrirai une petite critique dessus parce que ça, à mon avis, ça vaut le coup de fixer un certain nombre de trucs par écrit.
Moi, vous m'avez bien motivé pour faire le DLC quand j'aurai un peu fini ce qui traîne sur ma Switch.
Moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé, plus que le jeu principal, et j'étais le premier étonné. Hein. Je te dis, la première fois que j'ai vu le truc, il dit faut que tu remplisses ton sociogramme jusqu'au niveau 2, j'étais là genre what. Et je me suis forcé tout ça, et en fait, le deuxième coup, je me suis vraiment pris au jeu et c'est parti tout seul. Et c'est vraiment cool. Alors, il y a juste un dernier truc, parce que j'avais dit que j'avais deux défauts dont je voulais parler, il y a un dernier truc. La toute fin.
Donc, d'accord.
Après. Alors,
vas-y
la fin,
doucement, ça me
fait chier. Je spoil pas.
Ok.
Putain, quoi. Non mais. Je crois que j'ai jamais lâché un aussi gros what the fuck devant ma télé depuis très longtemps. J'en dirai pas plus. Si vous le finissez. Et si vous comprenez pourquoi ce truc-là arrive, envoyez-nous un mail, hein, dojobar@nintendojo.fr, parlez-nous-en sur Twitter, venez nous en parler sur Twitch, mais expliquez-moi, j'aimerais comprendre. Parce que j'ai rien bité. Je comprends pas pourquoi les mecs ont pas arrêté le jeu au moment où...
Ils auraient dû l'arrêter.
Où ils auraient dû l'arrêter. Là, ils ont voulu faire un Marvel avec une scène supplémentaire, je comprends pas. Déjà, il y a pas le Black qui arrive et qui dit ah, je te recruterai bien pour mon équipe dans Argus. Déjà, c'est pas compréhensible. Mais le truc est en mode mais d'où tu sors quoi? Qu'est-ce qui pourquoi?
Alors, moi j'ai vu un petit peu parce que voilà par contre.
Ouais, allez-y. Ouais,
non, on ne spoile pas.
C'est quoi? C'est un lien avec un autre jeu?
Non, on ne spoile pas.
Moi j'ai vu ça comme un hommage au premier Baten Ketos, mais ça vient pas plus loin.
Voilà, on n'en dira pas plus.
Là, c'est vrai que l'univers est proche. Ouais.
Voilà, on va se quitter là, je pense. On va se retrouver dans 2 semaines. Vous nous retrouvez en podcast dès demain. Et oui, pour me faire pardonner d'avoir eu beaucoup de retard sur le dernier podcast, le podcast
qui est beau.
Dès demain. Ah ouais, non, mais là,
franchement. On compensera le fait que le podcast est sorti aujourd'hui.
voilà, mais en fait, vous allez avoir 2 podcasts pour le prix d'un. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Là, on vous fait une grosse réduction. C'est un crunch énorme de au moins 1 heure que je vais faire demain pour faire le montage de ce. Voilà. Sachant que là, il est 22h40 à peu près. Et et donc, on est bien à peu près.
Putain, ce Twitch!
À une match presque.
J'ai pas regardé plus longtemps, moi j'ai très peur de jouer.
Bon, allez, faut finir! Hein.
Voilà, faut s'en aller maintenant.
Allez, faut s'en aller, les gars. Faut s'en aller.
Faut passer le balai. Voilà, donc on se retrouve dans 2 semaines. Bisous tout le monde, ciao.
Allez, bisous tout le monde.
Bisous.
Bye.
Salut.